Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Midi 59 sur RMC. Salut à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant de laisser la main à Benoît Boutron pour le Multi Ligue 1 avec Sébastien Piocelle. Manu Amoros, membre de la Dream Team Foot d'RMC, est avec moi. Salut Manu.
Salut Florent, bonjour à tous.
On va suivre la 23e journée de Ligue 1 dans quelques instants. Toulouse-Rennes, coup d'envoi à 13h. En cas de victoire, les Rennais pourraient revenir provisoirement à 3 points de Lens et de la 4e place. Un haut de classement resserré après la victoire de Monaco hier face au PSG. 4e défaite déjà pour les Parisiens en 2023. La 2e en une semaine après l'élimination en Coupe de France face à l'OM. À 2 jours du grand rendez-vous en Ligue des Champions face au Bayern, rien ne va plus à Paris. Et puis comme tous les dimanches, notre page blanche, les championnats du monde de biathlon et de ski alpin se déroule en ce moment. La poursuite dames à suivre à 13h25 dans l'Intégral Sport. Et on retrouvera nos envoyés spéciaux à Courchevel pour revenir sur la descente homme ce matin. Mais d'abord, on va prendre la direction de la Ligue 1. Manu, on va retrouver Paul Lafitte tout de suite du côté de Toulouse pour ce Toulouse-Rennes. Salut Paul.
Salut Florent, salut Manu, bonjour à toutes et à tous.
Avant le coup d'envoi, on va détailler les compositions avec toi, avec un absent de marque côté toulousain.
Oui, on le disait dans la présentation dans les paris, blessé, évidemment, incertain. L'un des meilleurs joueurs toulousains depuis maintenant plusieurs saisons, Branko van den Boomen, n'est pas sur la feuille de match. Il sera donc dans les gradins du stadium pour suivre cette équipe du TFC. On le rappelle, Flora, qui marque les esprits depuis le début 2023 avec beaucoup de buts marqués. C'est tout simplement l'équipe qui a le plus marqué de buts depuis le début du 1er janvier 2023. Ça vous classe une équipe, hein. Toulouse, on l'appelle 12e de ce classement, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Jérémy Stinat sous un beau soleil toulousain. Effectivement, on retrouvera devant Fares Chaibi, Abouklal, l'un des meilleurs joueurs aussi depuis le début de la saison côté toulousain, Ratao ou encore Dalinga, le meilleur buteur en exercice du TFC. Côté René, deux petites surprises, hein. Les titularisations aujourd'hui de Désiré Doué et de Jérémy Doku à la place de Toko Ekambi et de Magère pour le reste du grand classique, et pour Philippe Montagnier, le technicien du TFC, mais également pour son homologue Bruno Genesio, ancien entraîneur de Toulouse qui officie évidemment sur les rangs de Rennes et qui a de grandes ambitions, qui aimerait retrouver le chemin de la victoire. On rappelle que les Rennais ont été battus et c'était une surprise la semaine dernière au Roazhon Park par Lille 3-1, alors que Toulouse avait perdu sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Deux buts, hein. Les deux équipes sont donc en quête de points ici cet après-midi sur cette pelouse du Stadium de Toulouse.
Ouais, Manu, comment tu vois ce match toi aujourd'hui, avec une belle ambition à avoir pour les Rennais, se rapprocher comme ça de la 4e place, une belle opportunité?
Oui, belle opportunité pour les Rennais, mais aussi belle opportunité pour les Toulousains aussi, puisque ils sont qu'à 10 points de 3 qui est 16e. Donc prendre un peu de large et se rassurer au haut niveau du maintien, parce que Toulouse joue le maintien. Donc par ses résultats à chez lui, a eu des points mérités. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui ne perd pas souvent chez elle et qui a de l'ambition peut-être de monter un peu plus haut.
On va suivre ces premières minutes entre Toulouse et Rennes avec toi, Paul, avec les Rennais qui ont le ballon pour le moment.
Oui, les Bretons qui monopolisent effectivement le ballon, une belle circulation de balles, effectivement. Rennes, à la surprise générale, a battu la semaine dernière, qui a besoin de points à domicile. Et d'ailleurs, Bruno Genesio le disait ce matin dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, nous avons besoin d'un gros résultat à l'extérieur. Rennes qui n'a gagné que 2 fois depuis le début de la saison en Ligue 1, alors que les Rennais viennent peut-être dans la surface de réparation. Attention, un contrôle en temps, finalement ce sont les Toulousains qui captent ce ballon, un mauvais dégagement et le beau pressing rennais d'entrée de jeu, alors que là c'est finalement un Toulousain qui se saisit de ce ballon. Le magnifique slalom, une faute, la première faute signée par un joueur rennais contre un joueur toulousain. Nous étions quasiment dans le rond central, il y a des intentions de part et d'autre. On le disait, les conditions, Flora et Manu, sont idéales, hein, un petit peu plus de 10 degrés, un grand soleil pour ce match de 13h, avec là aussi une très belle affluence, hein. Toulouse qui a, on le disait, marqué les esprits depuis le début du 1er janvier, marque les esprits, et donc les Toulousains, les supporters toulousains viennent au stade. C'est une belle fête, une belle communion, avant évidemment en ligne de mire le match face à Marseille. Ce sera ici au Stadium et ce sera évidemment à guichet fermé, mais on va évidemment se concentrer sur ce Toulouse-Rennes avec les Toulousains qui sont bienvenus pour la première fois dans la partie de terrain des Rennais, avec peut-être une belle opportunité, donc finalement la belle couverture de balle d'un joueur Rennais. Ce sera un dégagement en 6 mètres pour Steve Mandanda, l'ancien joueur justement de l'Olympique de Marseille. 0-0 donc ici au Stadium de Toulouse. On joue depuis un petit peu plus de 3 minutes en première mi-temps.
On va revenir avec toi du côté du stadium dans quelques instants. Paul, juste le temps d'évoquer à deux jours maintenant le grand rendez-vous PSG-Bayern, c'est mardi soir au Parc des Princes, huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la préparation est loin d'être idéale pour le PSG avec une nouvelle défaite hier face à Monaco. Timothée Mémon était au commentaire hier à Louis II. Salut Timothée.
Salut Flora, salut à tous.
Salut Timothée.
Le PSG en 2023, Timothée, c'est plus de défaites que de victoires. C'est quand même incroyable juste de dire cette phrase déjà.
Oui, effectivement, depuis l'après-Coupe du Monde, finalement, cette équipe a du mal à se remettre la tête à l'endroit. Il y a effectivement plus de défaites que de victoires. Il y a cette élimination en Coupe de France qui fait très mal. Mais au-delà de ça, il y a le fond de jeu qui est très inquiétant. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a plus de défaites que de victoires, si vous avez joué contre des équipes qui ont fait le match de leur vie, c'est un petit peu différent. Ce que l'on a vu hier, c'est une équipe démobilisée, une équipe pas nécessairement concernée, une équipe qui avait peut-être déjà la tête au match face au Bayern. Mais si c'est le cas, ça fait deux mois que c'est le cas et c'est beaucoup trop pour les ambitions du Paris Saint-Germain.
Manu, t'as vu ce match toi hier entre Monaco et le PSG? Il y avait beaucoup d'absents et quand même, il faut le dire, hein, c'est vrai côté parisien.
Mais on a la sensation. Pas une excuse,
Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de te dire que côté finalement, on les sentait pas vraiment très concernés les joueurs parisiens sur la pelouse parce qu'il y en avait qui avaient une belle carte à jouer hein, finalement l'absence des quatre comme ça.
Exactement. Il y a pas mal de jeunes qui ont joué. Malheureusement, ils n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Mais c'est surtout dans l'engagement. Il y avait rien. Et le problème, c'est que Neymar, qui doit amener cette équipe vers le haut et tirer cette équipe vers le haut, malheureusement, il n'a pas su le faire. Et ça a été vraiment... Moi, j'ai trouvé lamentable de la part des Parisiens, comme ils ont joué et comme ils ont laissé les Monégasques s'organiser et rentrer facilement dans les 16m50, dans les tirs. Quand tu vois que Donnarumma a été meilleur joueur du Paris Saint-Germain, tu te poses quand même des questions. Et il a quand même pris 3 buts. Donc, tu te poses beaucoup de questions dans l'engagement, dans l'agressivité, dans l'envie. Moi, j'ai vu des Parisiens qui n'avaient pas envie hier soir. Même quand ils étaient menés 1-0 voire 2-0, ils ont la chance de revenir juste avant la mi-temps et après prendre un but juste aussi avant la mi-temps. Donc c'est catastrophique quoi pour une équipe de Paris Saint-Germain. Mais comme Timothée le disait, c'est dans le jeu que c'est pas bon. Il y a pas de circulation de balle, il y a pas d'organisation, il y a pas quelqu'un qui prend le jeu à son compte et qu'on organise. Alors c'est vrai, c'est compliqué de toute manière. Moi si j'avais été Galtier, Neymar je le sors. Il a rien fait du tout. À part des petites passes à côté de lui pour pas perdre le ballon, mais il a jamais provoqué, il a jamais tenté des tirs, il a jamais essayé d'organiser le jeu offensif pour le Paris Saint-Germain. À un moment donné, il faut que Galtier se pose des vraies questions. Est-ce qu'on peut continuer à jouer avec Neymar, Messi et Mbappé et il n'y a pas de collectif? Je pense que dans un collectif, ils ne ressortent pas assez et il n'y en a pas du tout au collectif.
C'est un peu le problème du PSG hein, ces dernières années de toute façon. Timothée, justement, Manu parlait de Neymar qui n'a pas fait grand-chose. Si, il a beaucoup activé Vitinha aussi sur le terrain. Il y a eu de vifs échanges entre le Portugais et le Brésilien. Et puis même, on sent beaucoup de tensions entre les joueurs avec le staff aussi. Tu l'as senti toi au stade aussi hier?
Oui, les tensions sont assez générales entre les joueurs entre eux parce qu'on les a sentis impuissants. Et pour n'importe quelle personne qui a joué au football, quand on a ce sentiment d'impuissance, soit on fait son autocritique, soit on s'énerve contre les autres. Et ça a été le cas de Neymar qui s'est effectivement agacé en portugais avec Vitinha. On a également appris, et je me le suis fait confirmer, qu'à la mi-temps, Luis Campos a passé un savon à l'ensemble de son équipe en ayant des mots très dur, vraiment, à l'égard de ces joueurs, pas en visant en particulier, mais en les visant tous collectivement sur justement l'absence d'investissement, sur le fait qu'il fallait plus travailler, sur le fait qu'il fallait faire des efforts. Une invective qui a quand même duré de longues minutes pendant les 15 minutes de la mi-temps de ce match d'hier. Ça prouve qu'il y a des tensions. Vraisemblablement, on a entendu dire également qu'il y aurait eu suite peut-être à ce coup de gueule de la mi-temps, un accrochage verbal entre Neymar et justement Luis Campos de nouveau à la fin du match. Au milieu de tout ça, il y a Christophe Galtier qui essaye lui de garder son équipe concentrée, mais c'est peut-être difficile aussi pour Christophe Galtier de faire un speech à la mi-temps, de remettre en place dispositif tactique, de remobiliser ses joueurs quand les 15 minutes de mi-temps, 8 ou 10 sont prises par Luis Campos pour passer une soufflante à ses joueurs. Donc il essaye évidemment, Christophe Galtier, de garder la barre, mais c'est compliqué. On a bien senti hier qu'il était à court solution, notamment en fin de match.
Oui, mais Timothée, vu la première mi-temps qu'ils ont fait, on fait profit bas et on écoute ce que les gens qui ont vu des tribunes et ont remarqué que c'était lamentable de la part de Paris Saint-Germain. Donc on écoute et on ferme sa gueule. Je crois que Neymar a pas le droit d'ouvrir par rapport à la première mi-temps qu'il a faite, parce que c'était vraiment une catastrophe sa première mi-temps. Donc des fois, il faut rien dire, laisser passer l'orage et après prouver en deuxième mi-temps qu'on peut revenir au score, on peut être meilleur que ça, on peut être dans l'agressivité, mais malheureusement, ils ont fait une première mi-temps et une deuxième mi-temps aussi catastrophique que la première, il ne faut pas croire. Hein.
Moi, je suis d'accord avec toi, Manu. Ce que je mettais en avant, c'est le fait qu'à ce moment-là, à la mi-temps, on va dire qu'une heure avant le coup d'envoi et une demi-heure après le match, c'est peut-être le moment du coach. C'est le moment où c'est au coach de parler et où peut-être on évite justement les arrivées externes. Alors on peut comprendre la colère de Luis Campos, elle est légitime. Elle ressemblait à celle des supporters, on va y venir. Peut-être que Christophe Galtier s'est aussi senti d'une certaine manière court-circuité par l'intervention de Luis Campos.
Timothée, Manu.
L'ouverture du score. L'ouverture du score toulousaine contre le cours du jeu. Alors qu'il y avait une position de hors-jeu, finalement. C'est Aboukral qui avait marqué, mais une position de hors-jeu. L'ouverture était belle. On en reste là, Flora, 0-0. On joue la 10e ici au Stadium de Toulouse.
Ah, dommage, on y était prêts. Je me suis dit, niveau timing, on était bien, Paul, là. Mais.
Mais redonne la main.
Ouais, mais
secondes.
En tout cas, Manu, c'est vrai qu'on voit aussi les forces offensives de Toulouse dans ce début de match.
Ben, oui, parce que Toulouse joue bien le coup, parce qu'il laisse Rennes s'organiser au milieu de terrain, mais en contre avec Aboukhlal, Ratao et Dalinga, ça va très vite. Donc ça peut ça peut vraiment inquiéter toute cette défense rennaise et il laisse beaucoup d'espace les Rennais, hein, parce qu'ils se projettent vers l'avant, mais il n'y a pas beaucoup de couverture si jamais ils perdent le ballon.
Ouais, il y aura des possibilités quoi qu'il arrive pour Toulouse dans ce match. On retourne à ce PSG Bayern qui nous attend mardi soir au Parc des Princes avec Timothée Mémon qui a commenté hier la défaite du PSG à Monaco, et on avait envie aussi d'évoquer, Timothée, après les tensions internes, les supporters aussi commencent à s'agacer côté parisien. On a vu une banderole hier et on a surtout vu Presnel Kimpembe prendre la parole aussi devant les supporters parisiens.
Oui, on a vu la banderole, on a vu des chants, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas bon, chantait-il.
C'est plus mesuré.
Mauvais, c'est pareil. Parce qu'hier soir, ils ont été mauvais, ils n'ont pas été bons.
il faut aussi rappeler que les supporters étaient passablement remontés parce que leur déplacement ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient. Les supporters parisiens ont fait l'objet de fouilles extrêmement poussées, ce qui fait que certains d'entre eux sont rentrés dans l'enceinte de Louis II plus d'un quart d'heure après le début de la rencontre. Donc au début il y avait une grève des encouragements et puis après tout ça pour assister à ce simulacre de football de la part de leur équipe. Il y avait de quoi être en colère. À la fin de la rencontre, Christophe Galtier a envoyé, parce que les joueurs n'y allaient pas d'eux-mêmes comme trop souvent, certains joueurs saluaient le public, mais il a envoyé Zaïre Emery qui était l'un des jeunes qui avait marqué, qui avait franchement pas mérité, donc son nom a été scandé. Il a envoyé Donnarumma qui avait fait un gros match, et puis finalement Kimpembe d'une certaine manière les a portés, passe-moi l'expression, et lui est allé devant le COP du CUP et a pris le porte-voix pour calmer la colère, peut-être pour donner des explications sur la mauvaise prestation de son équipe, et puis surtout, et Christophe Galtier le rappellera quelques minutes plus tard en conférence de presse, demander l'union sacrée, parce que il y a un objectif supérieur au tracas de l'équipe actuelle, supérieur à l'agacement des supporters, supérieur à la colère de Luis Campos. C'est la Ligue des Champions, c'est le match de mardi face au Bayern.
On va en parler évidemment,
on peut être inquiet quand même par rapport au match de Paris Saint-Germain contre Monaco, parce qu'il n'y a rien eu. Alors oui, il y a peut-être des blessés qui vont revenir et ça va être peut-être mieux, mais on est inquiet, on ne sait pas ce qui va se passer mardi soir. Est-ce qu'ils vont prendre une rousse contre le Bayern s'ils jouent comme à Monaco? C'est sûr qu'ils risquent de prendre cher, hein.
Est-ce que tu as senti, Timothée, un Christophe Galtier inquiet lui aussi justement avant ce match, peut-être pour son avenir aussi à lui, parce que la question va se poser à un moment, c'est toujours sur l'entraîneur qu'on tape côté parisien.
Sur son avenir à court terme, je ne le crois pas. Un entraîneur lucide, donc inquiet. Écoutez-le.
On a un calendrier très chargé. On a l'effectif qui est très touché, très affaibli. Mais oui, on est inquiet. Et dans cette période-là, il faut garder la lucidité. Je comprends la colère de nos supporters. elle est très légitime, la frustration qui devient de la colère sur deux grands déplacements. Et dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée. Il y a que comme ça, il faut trouver de l'énergie, des forces vives. Et évidemment que nos supporters, qui sont de fidèles supporters, qui sont en colère, déçus en ce moment.
Il y a deux éléments importants dans la communication de Christophe Galtier dans cette conférence d'après-match. D'abord, il y a sa lucidité sur la situation et le fait qu'il veuille garder la tête froide. Je n'en doute pas une seconde, mais ce sera extrêmement difficile dans le climat de tension qu'il y a actuellement au Paris Saint-Germain. L'autre chose, c'est ce terme d'union sacrée. L'union sacrée, on ne la prône que quand on est en crise. Et le Paris Saint-Germain est donc bel et bien en crise, puisque le Paris Saint-Germain a besoin de prôner l'union sacrée. Et ce, à trois jours du match face au Bayern. Ce qui est terrible avec ce club, c'est que chaque année, quand arrivent les échéances de Ligue des Champions, il se passe quelque chose. Il y a une blessure. Ça a parfois été celle de Neymar. On se souvient en Coupe de France. Ouais. Voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. On était en droit d'espérer avec Christophe Galtier qui dans son management arrivait un petit peu.
Ça avait bien démarré.
Voilà,
ouais.
Un petit peu par sa capacité politique dans le sens noble du terme à ménager la chèvre et le chou, à garder chaque personne du club à sa place. Et bien là, c'est la preuve que ce club est trop gros. Trop gros pour quelque entraîneur que ce soit, puisqu'il a essoré des Ancelotti et des Thomas Tuchel.
Ah, ces dernières années, oui, il y en a eu beaucoup. Manu, c'est vrai qu'on parle évidemment de ce rendez-vous mardi soir parce que c'est le grand rendez-vous de la saison du PSG jusque-là. Et comme le disait très bien Timothée, on a l'impression que le PSG, ces dernières années, n'arrive pas à aborder un rendez-vous comme ça en pleine confiance, avec un climat sain et serein. Il y a toujours quelque chose, en fait.
Ouais, on a l'impression qu'ils le cherchent à chaque fois. Hein. Mais on a l'impression aussi que certains joueurs ont préparé la Coupe du Monde à travers les premiers matchs de championnat avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Parce qu'ils ont été brillants à la Coupe du Monde, que ce soit Neymar un peu moins que Messi et Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une seconde phase qui arrive et malheureusement ils sont pas au rendez-vous. Est-ce qu'ils sont fatigués de la Coupe du Monde? Je crois pas, parce qu'ils ont eu du temps de récupérer. Il n'y a pas eu des matchs tous les trois jours. Donc c'est le problème qui va être réglé, ça va être les joueurs qui vont le régler. Parce que admettons qu'ils fassent un bon résultat contre le Bayern ou qu'ils gagnent le match, on va dire ça y est, le Paris Saint-Germain est reparti. Non, c'est pas vrai. Le Paris Saint-Germain sera pas reparti, parce que on peut pas oublier toutes ces défaites qu'il y a eu contre Marseille, contre Rennes, contre hier soir contre Monaco. Et il va falloir en tirer les conséquences, parce que Galtier peut-être n'arrive pas à trouver la solution actuellement à faire vraiment une tactique complémentaire avec tous les joueurs qu'il a. Alors on peut se demander, est-ce que les joueurs qu'il a comme Soler, comme Ruiz sont faits pour le Paris Saint-Germain? Je sais pas, j'ai un doute. Donc l'effectif il est pas étoffé non plus. On l'a vu, Ekitike n'a pas été bon comme avant-centre hier soir, alors qu'il aurait pu faire davantage. Mais voilà, est-ce que Paris Saint-Germain peut arriver au bout à la Champions League? Là, j'ai des doutes.
Ouais. On a des doutes, effectivement. Premier, en tout cas, rendez-vous, ce sera mardi soir, 21h au Parc des Princes pour ce PSG Bayern de Munich, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Timothée.
Avec plaisir.
Pour ces précieuses infos côté PSG. Manu, nous, on va retourner du côté de Toulouse avec une belle opportunité pour les Toulousains. Paul Lafitte, encore une fois.
Ah ouais, encore une fois, une belle opportunité avec un centre venu de la droite vers la gauche de Fares Chaibi. Mais finalement, l'avant-centre toulousain était un petit peu juste pour reprendre face à Steve Mandanda. On rappellera également la fausse ouverture du score pour une position limite de hors-jeu d'Abouklal, le meilleur Toulousain depuis le début de cette rencontre. 0-0, évidemment, on joue depuis un petit quart d'heure ici au Stadium de Toulouse. Et Manu et Flora, oui. les débats se sont un petit peu rééquilibrés, en tout cas au niveau de la possession. Rennes avait mieux démarré et Toulouse, Manu, semble à nouveau contrôler un petit peu le timing dans cette rencontre.
Oui, c'est ça, ils ont laissé passer un petit peu l'orage et arrivent maintenant à avoir une supériorité au milieu de terrain. Et dans le collectif, c'est beaucoup mieux. Donc il va falloir peut-être accentuer un peu plus au niveau de l'offensive et créer davantage dans des décalages entre les deux Rennais. Ça peut être intéressant.
Et ce score donc de 0 à 0 la 17e. Et puis une petite précision, Florent, j'évoquais tout à l'heure Bruno Genesio, le technicien, l'entraîneur de Rennes, ancien entraîneur évidemment de l'Olympique Lyonnais, hein, non du TFC, du Toulouse Football Club. Voilà pour cette parenthèse refermée. Le ballon dans les pieds de Steve Mandanda, l'ancien gardien international, et un dégagement directement dans les pieds d'un joueur toulousain, avec eh bien encore une fois Abouklal qui se met à l'évidence là, même si c'est un joli slalom, et dans le couloir droit lui aussi se met en évidence depuis le début de cette partie. C'est Jérémy Doku, on le disait dans la présentation, qui ne devait pas être titulaire, eh bien qui a pris la place eh bien cet après-midi, hein, sur cette pelouse de Karl Toko Ekambi, qui est lui remplaçant dans les bancs rennais. Et là c'est une faute toulousaine, on va revenir dans le camp et peut-être porter le danger dans la surface de réparation du TFC. On le disait, les conditions idéales, hein, pour disputer cette rencontre de Ligue 1. Et on rappellera également le classement importantissime, Flora, tu le précises, en cas de victoire, Rennes qui pourrait remonter à la 4e place. 40 points pour la formation de Bruno Genesio, 12 victoires depuis le début de la saison, 4 nuls et 6 défaites, alors que Toulouse est aujourd'hui 12e avec un total de 29 unités au compteur, 8 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Mais les Toulousains qui sont plutôt saignants depuis le début du mois de janvier, une qualification également pour les quarts de finale de la Coupe de France. Donc les voyants, j'ai envie de dire, sont au vert pour cette formation entraînée par Philippe Montagnier, championne de France de Ligue 2 la saison dernière, et qui aimerait bien se mêler au top 10 cette saison en Ligue 1. Ils n'en sont pas loin, les Toulousains, même si là ils sont tous eh bien arc-boutés en défense dans leur surface de réparation, un petit peu eh bien quelques secondes avant évidemment que les Rennais ne jouent ce coup franc en deux temps. Finalement, la tête d'un défenseur toulousain, c'était un petit peu mal tiré par Benjamin Bourigeaud, le capitaine Rennais. 0 à 0 donc, est quasiment la 20e ici au Stadium de Toulouse.
Allez, on retourne à Toulouse dans quelques instants, il est 13h20 sur RMC, l'Intégral Sport avec Manu Amoros revient juste après ça.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi. 13h22 sur RMC, l'Intégral Sport continue avec Manu Amoros. On suit la 23e journée de Ligue 1. C'est parti des 13h entre Toulouse et Rennes. On va retrouver Paul Laffitte au stadium avec un corner pour les Rennais.
Oui, et une première occasion, Flora, il y a quelques petites secondes. Doku, un contrôle et une frappe. Il a fallu toute la vigilance de Maxime Dupé, le gardien du TFC, pour eh bien éviter à Toulouse d'encaisser un premier but. Un corner qui ne donnera rien. On a également vu eh bien l'intervention plus que virile, encore une fois, d'Abouklal sur un joueur rennais dans la surface de réparation, alors que là c'est un Toulousain qui a, semble-t-il, poussé encore une fois un joueur rennais dans la surface de réparation. Mais l'arbitre Jérémy Stinat qui ne bronche pas, il se relève en deux temps le joueur rennais. Et finalement eh bien les Toulousains qui ont joué trop rapidement ce coup-là. Mais on sent, Manu, la pression mise par les rennais là depuis un petit peu plus de 5 minutes sur la cage du TFC.
Oui, il contrôle un peu plus le jeu, et puis il y a surtout Doué et Guiri et Colimondo qui bougent davantage, donc il y a beaucoup plus de solutions aux porteurs du ballon, et ça crée vraiment des brèches dans cette défense toulousaine. Et on a vu Doku qui a frappé, et qui est un bon réflexe de la part du gardien, mais c'est vrai qu'il y avait une belle petite poussette là-bas, elle aurait pu intervenir, hein.
Me semble-t-il, ouais.
Franchement.
Ouais, il n'a pas branché, hein, Manu, l'arbitre de cette partie, Jérémy Stinat, alors que les René continue avec, à l'intérieur de la surface de réparation, encore un slalom en deux, en trois temps finalement d'Adrien Truffert, lui aussi très en vue depuis le début de cette partie. Et là c'est une faute d'un joueur René sur Dalinga, le meilleur buteur toulousain depuis le début de la saison, avec cette réalisation au compteur. 0 à 0 évidemment, on joue la 24e ici au Stadium de Toulouse, et la première donc très nette occasion en faveur des joueurs de Bruno Genesio. Cette frappe de Doku suite à un beau contrôle dans la surface de réparation venu eh bien d'un centre de la gauche vers la droite, encore une fois d'Adrien Truffert, on le disait, lui aussi très présent dans ce match de la 23e journée de Ligue 1 entre le TFC et Toulouse. Donc pour l'instant, rien de marqué ici au Stadium, c'est la 24e.
Ouais, on garde évidemment un œil du côté du Stadium pour ce Toulouse-Rennes, mais on va parler un petit peu sport d'hiver parce que la saison bat son plein. On ira à Courchevel-Méribel tout à l'heure pour parler de ski alpin, mais d'abord direction l'Allemagne à Oberhof où se déroulent les championnats du monde de biathlon.
RMC, la page sport d'hiver.
Ça a débuté un tout doucement pour les Français dans ces championnats du monde de biathlon, avec seulement une médaille de bronze en trois courses. Place aux dames dans quelques instants avec la poursuite. Julien Richard suit tout ça pour RMC depuis l'Allemagne. Salut Julien.
Salut Flora, et à l'instant où tu arrives, tu entends peut-être
l'ambiance
allemand, 25 000 personnes environ sur ce véritable stade de biathlon plongé dans le brouillard pour le départ de la star locale Denise Herrmann. La première à s'est lancée, c'est elle qui a remporté le sprint de ces championnats du monde, c'était vendredi, et donc c'est elle qui s'élance en tête. On va rappeler justement le principe de la poursuite en biathlon, on reprend les écarts du sprint et on s'élance avec ces écarts. Donc pour les filles, 10 km à parcourir, 5 boucles de 2 km. Il y a 4 tirs à effectuer, 2 tirs couchés, 2 tirs debout. Chaque balle ratée, vous le savez, c'est un temps de pénalité, 150 mètres en gros, à parcourir en plus une vingtaine de secondes de perdu, avec des conditions donc ici pour ce départ assez compliqué, puisque comme d'habitude, Oberhof est plongé dans un épais brouillard. On n'y voit pas grand chose, pour te dire, là où je suis de ma tribune, eh bien, je ne vois pas les cibles et le public, à mon avis, ne voit absolument rien. Et à 50 mètres, la visibilité, si la course est partie, c'est que c'est bon. Mais en plus, au fur et à mesure de cette poursuite, ça pourrait se compliquer. Alors que Julia Simon, donc, la première française, s'était lancée avec 1 minute et 3 secondes de retard sur Denise Herrmann, à la poursuite de l'Allemande pour Julia Simon, la leader du classement général de la Coupe du Monde.
Ah ouais, la grande chance de médaille pour nous, pour l'équipe de France. Grosse déception quand même pour elle sur le sprint. On attend sa réaction aujourd'hui. Et comme tu le disais, forcément, avec cette déception sur le sprint, elle a un petit peu de retard du coup au départ sur la poursuite.
Ouais, grosse déception, c'est vrai, sur ce sprint et sur ces deux dernières balles. Elle était parfaite jusqu'à la huitième balle, mais elle a raté. Double faute en biathlon, ça fait mal à la tête. Elle a eu du mal à se...
L'ouverture du score toulousaine, le stade qui est debout, et c'est encore une fois Ratao qui conclut cette action initiée par Aboukal. Il y avait eu la sortie de Steve Mandanda qui n'avait pu que retarder l'échéance. Le ballon a touché le poteau et finalement Ratao qui avait suivi pour mettre le ballon au fond. Défilé, le TFC qui mène 1-0 ici au Stadium de Toulouse. On joue la 27e minute en première mi-temps.
Ouais, c'est plutôt bien joué ça, Manu, d'à part de Toulouse.
Ils sont venus bien fixer. Entre l'appel et la passe, elle était parfaite. Tir croisé, le gardien la touche, Mandanda la touche, malheureusement sur le poteau, et Ratao est là pour la mettre au fond. Mais l'action est belle, franchement, bien dosée, cette balle bien en profondeur, et à partir de la limite du hors-jeu. On parlait tout à l'heure des espaces, des lignes où on pouvait se mettre et provoquer peut-être des décalages par rapport à cette défense rennaise, et on l'a bien vu là-dessus.
Et son cinquième but de la saison pour Ratao, donc, qui permet donc aux joueurs de Philippe Montagné de mener 1-0. J'ai pas envie de dire contre le cours du jeu, mais même si les Rennais avaient remis
un peu quand même,
ils avaient remis le pied sur le ballon. Il y avait eu cette occasion pour Jérémy Doucouet finalement. Et bien, ce but en contre donc du TFC par Ratao, 1-0. Flora, quasiment ici à la demi-heure de jeu au Stadium de Toulouse.
Ouais, évidemment, tu nous tiens informé d'évolution éventuelle du score, Paul. On continue nous de parler de biathlon avec Julien Richard en direct d'Oberhof, parce que la poursuite d'âme vient de partir. On parlait, Julien.
Ouais, le 2-0 pour le TFC, alors que le drapeau s'est levé finalement sur un nouveau contre. C'est cette fois-ci Aboukal qui pensait bien avoir marqué son but, lui qui avait déjà mis le ballon au fond des filets, mais il avait déjà une position de hors-jeu, alors que là on va peut-être demander la VAR. Il y a les supporters toulousains qui sont en train de siffler. Y aura-t-il la VAR pour voir si Toulouse mène 2-0? C'est encore, Manu, tu as certainement les images limite, hein.
C'est limite, mais c'est surtout que sur la frappe, je ne sais pas qui c'est qui frappe. Il ne veut pas donner le ballon donc à Aboukal, donc il frappe, et c'est Mandanda qui rend le ballon à Aboukal.
Je ne suis même pas sûr qu'il n'est pas donc, du tout hors-jeu au départ de la frappe. Il n'y a absolument pas hors-jeu.
Ça va être limite le hors-jeu quand même. Que c'est l'adversaire qui donne le ballon à l'attaquant.
C'est ça. En fait, c'est une récupération.
Il
n'y a pas du tout hors-jeu.
La VAR. Le but est validé. Effectivement, et cette fois-ci Aboukal qui marque et qui permet au TFC de mener 2-0. On le disait il y a quelques instants, le cinquième but de la saison pour Ratao. Eh bien, les buts s'enchaînent, le sixième but pour Aboukal, l'un des meneurs de jeu de cette formation du TFC, qui permet donc aux Toulousains de mener 2-0. C'est un coup derrière la tête pour les hommes de Bruno Genesio, qui est stoïque le long de la ligne de touche. Rennes, et qui avait la possession du ballon et qui, en l'espace de
deux minutes est tout simplement mené 2-0 par le TFC.
Incroyable. Ouais,
mais tu vois l'erreur que Rodon il fait, c'est qu'il recule en permanence. Ouais. Donc il permet à l'attaquant de pouvoir ou frapper ou pouvoir donner le ballon sur le côté, c'est Aboukal. Donc du moment qu'il recule, il a donné l'opportunité à l'attaquant de frapper. Et il aurait dû, alors qu'il aurait dû monter sur le porteur du ballon, c'est quand même mieux.
Une ambiance extraordinaire, hein, Florent et Manu.
On entend derrière toi, ouais.
Les supporters, la tribune Bruce Tatton.
Ça a réveillé tout le monde d'un coup, là.
C'est ça, ils sont tous debout. On le disait dans la présentation, jour de fête ici, lorsque l'on reçoit un grand de Ligue 1 et lorsque eh bien, les buts s'enchaînent comme ça et que Toulouse mène, l'ambiance était assez extraordinaire, assez folle. Dans les travées donc, du stadium, 2-0, on atteint pile poil ici la demi-heure de jeu au stadium.
Allez, ils en passent des choses à Toulouse. Ouais, on va juste terminer avec Julien Richard parce que j'ai l'impression que du côté du stadium, il peut se passer plein de choses. On va retourner à Oberhof hein, pour les championnats du monde de biathlon. La poursuite d'âme, c'est parti, Julien. On parlait de notre favorite, Julia Simon, qui a vécu une vraie déception hier sur le sprint.
Et qui a déjà remonté pas loin de 10 secondes alors que les deux premières arrivent sur le premier tir, l'Allemande Denise Herrmann et la Suédoise Anna Öberg qui ont skié ensemble sur ce premier tour. Et évidemment, il faut ouvrir des portes pour que Julia Simon puisse espérer quelque chose dans cette course. Il y en a une qui a été ouverte par Anna Öberg qui réalise une faute, une erreur, un tour de pénalité, pour Denise Herrmann. Vic, la vainqueur du sprint, ça fait en gros une bonne vingtaine de secondes de perdu alors que eh bien Julia Simon va arriver sur le pas de tir avec 48 secondes de retard. Ça veut dire qu'elle est partie très très fort hein, sur la première partie de course puisqu'elle, je vous le rappelle, elle s'était lancée avec 1 minute et 3 secondes de retard, la Française. C'est au tour de Roiseland et de Persson alors que Julia Simon s'installe sur le tapis pour son premier tir. Ça tire très vite pour Lynn Persson suédoise qui est impeccable. Une erreur pour Marthe Holzbu Roiseland. Julia Simon, ce tir couché qui avant était son point faible, qui est depuis le début de la saison et son point fort qui lui a permis d'être aujourd'hui leader du classement général de la Coupe du Monde. On le rappelle, 3 sur 3 pour Julia Simon pour l'instant. Allez, c'est bien un super boulot pour la Française. La dernière, faut la mettre le plein pour Julia Simon. Et bien ça, c'est un super début de course. On va surveiller juste la sortie de ce pas de tir pour voir à combien de temps elle se situe de la tête de course. Pour l'instant, toujours occupée par Anna Öberg devant Denise Herrmann. Julia Simon après le premier tir est revenue en quatrième position à 26 secondes seulement de la tête de course.
Championne Julia Simon, effectivement, on va suivre tout ça avec toi Julien tout au long de l'après-midi, cette poursuite d'âmes pour voir si les Bleus vont avoir une nouvelle médaille dans ces championnats du monde de biathlon. Du côté de la Ligue 1, toujours 2-0 pour Toulouse face à Rennes. On retourne au stadium avec Manu Amoros dans quelques instants. Il est 13h32, restez bien avec nous sur RMC dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport, Flora Moussi.
L'Intégral Sport continue jusqu'à 15h avant de laisser la main à Benoît Boutron et Sébastien Piocel pour le Multi Ligue 2. Je suis avec Manu Amoros et on suit nous la 23e journée de Ligue 1 du côté du Stadium de Toulouse où tout se passe bien pour le TFC dans ce début de match face à Rennes, Paul Lafitte.
Oui, Flora, après 35 minutes de jouer en première mi-temps sous un beau soleil toulousain, eh bien le TFC mène 2-0. Les Rennais qui ont sombré en l'espace de 2 minutes. Hein. Un premier but de Ratao à la 27e pour le 1-0 sur une première frappe eh bien, de Shaibi qui avait été repoussé par Steve Mandanda, le ballon qui a filé eh bien, sur le poteau gauche et finalement Ratao qui récupère donc pour le 1-0 et action quasi similaire deux minutes plus tard avec ce même Shaibi qui frappe en première intention après un beau slalom, le ballon est repoussé par Steve Mandanda et cette fois-ci eh bien, ce n'est pas Ratao mais bien Abouklal qui eh bien, pousse le ballon au fond des filets. Il y a eu un arbitrage vidéo finalement, monsieur Stinat, l'arbitre de cette partie, qui a validé donc le deuxième but et ce 2-0, coup de massue on le disait pour les Rennais donc qui avaient la possession du ballon, qui avaient eu une très très belle occasion par Jérémy Boku aux alentours de la 20e, mais finalement coup sur coup bien Toulouse qui marque les esprits à domicile 2-0. Puis on lorgne évidemment du côté du classement. Toulouse, on le disait, 12e avant bien cette journée, qui pourrait grimper au 9e rang, qui reviendrait à hauteur de Lyon qui jouera aujourd'hui, qui reviendrait à hauteur de Reims qui jouera aujourd'hui également, et qui revient, ça c'est sûr, à hauteur de Clermont qui a déjà joué sa rencontre. Donc 2-0 Flora, la 36e ici au Stadium de Toulouse.
On va juste faire un petit point biathlon également, messieurs, du côté d'Oberhof avec Julien Richard, la poursuite d'âme conçue en ce moment avec Julia Simon, bien partie, qui remonte petit à petit. Hein.
Oui, un petit peu plus de 3 km de parcouru, un tir effectué sans faute pour Julia Simon qui est remontée à la 4e place pour l'instant à 27 secondes de la tête de course. Il y a un trio en tête, l'Allemande Herrmann, la Suédoise Öberg et l'autre Suédoise Lynn Persson, alors que Julia Simon plonge dans la descente.
Le 3-0, c'est pas possible, le stade qui est debout avec Aboukal,
Abouklal, Abouklal qui est énormissime, qui part couloir droit et qui s'en va, qui mêle le turbo, qui sprint et qui trouve, et bien dans la surface de réparation d'Alinga, le meilleur buteur toulousain depuis le début de la saison, et qui inscrit donc son 8e but pour le 3-0. La messe n'est pas dite, Flora, mais en l'espace de 9 minutes, et bien Toulouse vient de marquer 3 buts, le premier par Atao à la 27e, le deuxième par Abouklal à la 30e, et le troisième à l'instant par Dalinga sur une offrande d'Abouklal. Le 3-0, Toulouse mène ici, et bien martyrise l'équipe de Bruno Genesio. 3-0, on joue la 36e ici au Stadium.
Manu Rennes est en train de sombrer littéralement.
Complètement,
là.
Encore une erreur au milieu de terrain, on perd le ballon, l'appui défensif n'y est pas, on retrouve 3 défenseurs contre 4 ou 5 Toulousains, et puis Abouklal fixe bien et donne ce ballon à Dalinga qui plat du pied trompe Mandanda. Mais c'est trop facile là, au niveau de la récupération du ballon, surtout c'est une zone où on ne doit pas perdre le ballon et on le perd, donc défensivement, comme tout le monde est parti offensivement, défensivement il n'y a plus rien.
Ouais, ça va être compliqué pour les Rennais dans ce match. Là, 3-0, Détour par Oberhof parce que Julia Simon s'apprête à son deuxième tir, Julien Richard.
Allez, c'est le deuxième tir, la remontée folle se poursuit pour Julien Simon, 3 sur 3 pour l'instant, 4 sur 4, allez la dernière, faut la mettre, le plein, 10 sur 10 après les deux premiers tirs de cette poursuite, et l'opération fantastique pour l'instant de Julien Simon puisque Denis Herman est seul en tête, mais Anna Heuberg a commis deux erreurs devant et du coup elle va ressortir à mon avis, voilà qui est fait en deuxième position, Julien Simon à 23 secondes de Denis Herman. On rappelle qu'elle s'était lancée en dixième position à plus d'une minute de l'allemande, et eh bien la voilà désormais à la mi-course, deuxième à 23 secondes seulement de l'allemande. Et attention parce qu'il y a un très beau début de course également pour Sophie Chauveau, ça pourrait être la belle surprise pour l'équipe de France sur ce deuxième tir, le plein pour Sophie Chauveau qui était partie 27e et qui va ressortir dans le top 5, peut-être 6e ou 7e, l'autre française qui pourrait réaliser un gros coup dans cette poursuite folle ici dans le brouillard à Oberhof. Deuxième place donc après le deuxième tir pour Julia Simon, 7e place pour Sophie Chauveau qui est à une grosse trentaine de secondes du podium.
Allez, on croit à une nouvelle médaille pour l'équipe de France dans ces championnats du monde de biathlon. 3-0 hein, toujours pour Toulouse face à Rennes. On va retourner au stadium dans quelques instants, mais d'abord un détour par Méribel et Courchevel où se passent en ce moment les mondiaux de ski alpin avec Arnaud Souk et Sébastien Amier, notre vice-champion olympique. Salut messieurs.
Salut Florin, bonjour à tous.
Salut les amis
et à toutes.
Salut.
On a suivi ce matin, messieurs, la descente homme et on aurait aimé que la dernière grande course de Johan Claret se termine sur le podium. Et malheureusement, c'était pas ça du tout aujourd'hui, Arnaud. Ah, on les a perdus. Manu, du coup, c'est pas toi que je vais poser cette question. Je te rassure, on va retourner du côté du stadium avant de retrouver nos consultants du côté de Courchevel. Mais c'est vrai que là, le début de match pour les Rennais, ça s'apparente grandement à un cauchemar. Et je dis début de match, mais on est déjà à 40 minutes de jeu. Hein.
C'est ça, effectivement, Flora, la 40e ici au stadium. Il y a une grosse faute d'un joueur rennais là, dans la surface de réparation toulousaine. Le joueur toulousain qui est toujours au sol, mais qui devrait pouvoir se relever dans quelques petits instants. En l'espace de 10 minutes, les rennais ont tout simplement sombré. On le disait, un premier but de Ratao à la 27e. À la 28e, c'est cette fois-ci Abouklal. Après un arbitrage vidéo, eh bien, qui permet à Toulouse de mener 2-0. Et puis, ce but de Dalinga sur un raid un petit peu solitaire de Abouklal, couloir droit. Mais Manu, c'est vrai que tu as raison de le préciser, c'est un petit peu trop facile pour cette équipe toulousaine face au Rennais cet après-midi.
Bah, tu sais, quand tu perds des ballons dans une zone, oui, il ne faut pas le perdre. Après, tu t'exposes soit à une mauvaise passe, soit à un contre, et tu te retrouves en infériorité numérique en tant que les Rennais en défense. Et après, ça se joue à pas grand-chose, parce que Abouklal, on le voit, il est à la lutte avec un défenseur. Le défenseur aurait pu le pousser ou essayer de l'embêter davantage. Et il a pu faire un bon centre. Mais l'appel de Dalinga est bon parce qu'il part, je crois, du point de pénalty, il vient couper au premier poteau. Donc c'est pas mal, quoi. Donc quand tu es entraîneur, que tes trois attaquants ils marquent, t'es satisfait quand même, non?
Oui, largement satisfait. On va suivre cette action quand même. Rennes avec Doku et la frappe en première intention. Non, finalement, ça passe à droite des poteaux, des buts gardés par Maxime Dupé. En tout cas, là aussi, on le disait, Florent, Bruno Genesio, qui avait insisté cette semaine sur le fait qu'il voulait que son équipe arrive à marquer des points à l'extérieur, marque les esprits. On pensait qu'à domicile au Roizen Park, ils sont quasiment invincibles, même s'ils s'étaient inclinés face à Lille la semaine dernière 3-1. Eh bien, ça n'en prend pas le chemin, en tout cas cet après-midi. On a d'ailleurs vu la colère assez froide de Bruno Genesio sur le troisième but de Dalinga. Son équipe, eh bien, à la tête sous l'eau, un petit peu moins de 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, la très très belle opération et la belle démonstration du TFC qui mène donc 3-0, on le rappelle. Des buts de Ratao à la 27e, d'Aboukla à la 28e et de Dalinga à la 37e.
Allez, je retente ma chance du côté de Courchevel avec Arnaud Souk et Sébastien Amier. Est-ce que vous m'entendez, messieurs ?
On vous entend très bien.
Parfait. Je te disais donc, Arnaud, qu'on a vécu la descente homme ce matin et qu'on aurait aimé que ça se termine pour Yoann Claret, cette dernière grande course, hein, sur le podium. Et malheureusement, c'était vraiment pas ça aujourd'hui.
Et je te répondais donc, Flora, qu'en suiveur assidu du petit monde du ski alpin, on avait quand même quelques petits éléments qui nous permettaient de douter aujourd'hui de la capacité de Yo Claret à monter sur le podium. Il termine 23e, Johan, vraiment à plus de à quasiment 2 secondes, à 1 seconde 89 pardon, du vainqueur du jour, Marco Odermatt. Bon voilà, Johan Claret qui l'avait dit, les entraînements n'étaient pas très convaincants, c'était une piste qu'il a un petit peu découverte, une piste qui était aussi paradoxalement pas assez dure pour lui, Spastoun.
Ouais, il se sentait pas à l'aise, hein, il se sentait pas à l'aise sur les entraînements, même s'il a eu la chance de la skier un peu plus que les autres pays. Et malheureusement, voilà, la course d'un jour, comme il l'a dit, devant le public français, c'est pas toujours facile de se surpasser. En tout cas, il aurait aimé, bien sûr, inscrire son nom sur les tablettes aujourd'hui, mais voilà, ça n'enlève rien à sa grande carrière, à ses grands records, à sa longévité. Et il a essayé, il a joué, mais ça n'a pas marché.
Et finalement, aujourd'hui, la meilleure paire française, elle est pour Maxence Musaton.
Oui, Maxence Musaton qui termine 6e à 1 seconde 08. On a même entrevu le podium pour Maxence Musaton. Et c'est très paradoxal là aussi, parce que Maxence Musaton, il ne devait même pas la faire, cette descente au début. Il ne doit sa place. Alors, il était remplaçant, il ne doit sa place aujourd'hui en équipe de France qu'au forfait de Cyprien Sarrazin qui s'est bloqué le dos juste avant le début des mondiaux. Donc voilà, Maxence Musaton qui termine finalement 6e. C'est une belle récompense aussi, même si forcément, on est quand même obligé d'être un petit peu déçu, parce qu'on a entrevu le podium jusqu'au dernier intermédiaire, jusqu'à 14 secondes de la fin de la course, il était sur le podium provisoire.
Ah, il n'a pas à rougir du tout de sa course, hein. Il est là, voilà, comme il l'a dit, sélectionné dernière minute suite à Cyprien Sarrazin, à qui on fait un grand coucou d'ailleurs. Et il a joué jusqu'au bout, ça s'est joué à une courbe, il était cramé, on le sait qu'il était un petit peu malade aussi, hein. Il y a une petite gastro qui traîne ici sur Courchevel, mais en tout cas, il a fait vraiment du ski à sa hauteur. C'est un miraculé aussi du ski, il revient par des blessures, il a eu beaucoup de ligaments croisés à son actif. Et voilà, c'est un résultat encourageant pour lui aussi. Et ça lui montre que le ski, il est là. On lâche jamais rien. Et il fait partie de ces skieurs qui ne baissent pas les bras. Et sur le jour J, il sait se surpasser aussi.
Messieurs, restez avec moi dans quelques instants. Je vais vous retrouver juste détour par Oberhof parce que Julia Simon s'avance sur le pas de tir. Julien Richard.
Allez, une erreur pour Denise Herrmann. Julia Simon, si elle met le plein, va recoller à l'Allemande qui est en tête. 2 sur 2 pour l'instant, 3 sur 3. Elle bétonne son tir, elle prend son temps. Hein. C'est pas Lucky Luke qu'on connaît, engagé mais prudent. Le plein pour Julia Simon, allez, qui va ressortir alors que Denise Herrmann est en train de tourner sur la note pénalité. Et elle va ressortir juste devant l'Allemande. Juste devant l'Allemande, voilà qui est fait. Julia Simon en tête après le troisième tir. Et le troisième et avant-dernier tir de cette poursuite avec 1 seconde 5 d'avance sur Denise Herrmann, qui est évidemment très rapide sur les skis, l'ancienne spécialiste de ski de fond passée au biathlon. Et je surveille également le tir de Sophie Chauveau, hein, qui a fait une remontée superbe, 27e, elle est 7e pour l'instant. Et pour l'instant, ça se passe pas mal également pour Sophie Chauveau parce que ça a loupé devant elle. Donc si elle réussit le plein, malheureusement, elle va commettre une erreur, donc elle va même deux erreurs, donc ça va se compliquer peut-être un peu pour Sophie Chauveau. Deux erreurs, deux tours de pénalité. Deux jeunes femmes en tête, Julia Simon avec 1 seconde d'avance sur Denise Herrmann. La troisième, Ingrid Tendrevol, est à 34 secondes. Ça va se jouer donc sur le dernier tir. Et ce sera une médaille d'or, peut-être, au bout du fusil pour Julia Simon.
On croise les doigts et on va vous faire vivre tout ça, évidemment, sur RMC. Mais on retourne à Courchevel, les mondiaux de ski alpin, avec la descente homme qu'on a suivie ce matin. Arnaud Souk et Sébastien Amier, on a vécu une démonstration aussi de Marco Odermatt aujourd'hui. Hein.
Oui, et voilà, ça c'est la troisième surprise du jour. C'est que Marco Odermatt, enfin surprise, demi-surprise quand même, hein, parce qu'on l'avait largement placé dans les favoris, le Suisse. Mais quand je dis surprise, c'est surtout que la première descente remportée dans sa carrière est celle des championnats du monde. Et ça vaut presque deux médailles d'or pour Marco Odermatt, Bastoun.
Exactement, c'est une victoire qui vaut vraiment de l'or. Hein, et on le sait que depuis le début de saison dans cette discipline, il est aussi très fort. Il est passé un petit peu à côté, hein, en Super G. Pas à côté, parce qu'il fait quatrième quand même, mais il n'avait pas fait son ski. Par contre, aujourd'hui, il a réussi à produire vraiment un grand ski sur toute la partie partie finale où il a su voilà l'être le gros Marco Derman qu'on connaît. Chapeau à lui, et ça ouvre ce compteur pour ses mondiaux aussi pour lui, hein, par un titre, et ça va le libérer aussi pour le géant, pour ce qui arrive pour lui, et ça c'est important, ça va être un client redoutable encore en géant.
Merci beaucoup messieurs Arnaud Souk, Sébastien Amier, on vous retrouve évidemment tout au long de la compétition sur RMC. Prochain rendez-vous, tu me confirmes Arnaud, c'est l'épreuve mixte, l'épreuve par équipe mixte mardi, hein.
Absolument, ce sera mardi midi.
Eh ben parfait, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup messieurs, on retourne au stadium de Toulouse, Paul Lafitte, c'est la mi-temps entre le TFC et Rennes.
Oui, Flora, sifflé il y a quelques instants par Jérémy Stinat, et ce score de 3-0 en faveur des Toulousains ici dans leur entre du stadium. On rappellera le premier but de Ratao à la 27e, le deuxième d'Aboukla, à un arbitrage vidéo donc pour le 2-0, et à la 37e le but de Dalinga, meilleur buteur toulousain depuis le début de la saison, qui inscrit eh bien aujourd'hui son 8e but. En l'espace de 10 minutes, les Rennais auront donc sombré, et il y a eu quand même une très très belle occasion en toute fin de mi-temps, une transversale trouvée par Jérémy Doku qui a crocheté Dressler, et qui a finalement trouvé la barre transversale, mais les Rennais auront coulé en 10 minutes, donc ce score de 3-0. On voit mal Manu comment eh bien les Rennais pourrait revenir, hein, même si ça a peut-être été un petit peu trop facile pour les Toulousains à partir de la 25e, alors que Rennes avait la possession de ce ballon. En tout cas, eh bien, les Toulousains qui font plus que contenter leurs nombreux supporters ici au stadium, avec donc ce score de 3-0 à la mi-temps.
Ouais, Manu, c'est vrai que cette première période toulousaine, il n'y a rien acheté finalement. Ils ont pris les erreurs rennaises, ils ont su les concrétiser parfaitement, le réalisme. Hein.
Oui, c'est ça, le réalisme, la perte de balle trop facile de la part des Rennais au milieu de terrain qui a permis que Ratao, Dalinga et Aboukhlal marquent 3 buts. Ils ont bien débuté ce match-là, malheureusement. Ils se sont fait prendre aussi à leur propre jeu parce que ils dominaient, ils gardaient bien le ballon, et malheureusement, ils se sont fait prendre en corte avec des balles perdues trop facilement. Ouais. Donc, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Heureusement pour nous qu'il y en a tous les dimanches à 13h, il y en a.
Et oui, on se régalera aussi pour la seconde période. Merci Paul, on te retrouve tout à l'heure. On va filer à Oberhof, retrouver Julien Richard pour la poursuite d'âme, le dernier tir à venir pour Julia Simon. Et c'est une médaille d'or qui se joue, même si l'Allemande là est costaud sur les skis. Hein.
Alors il n'y a pas de balle perdue ici, en tout cas pas de balle perdue pour Julia Simon, 15 sur 15, aucune erreur sur ces trois premiers tirs, et on va bientôt approcher donc du moment de vérité de ce dernier tir. On rappelle que Julia Simon s'était lancée avec 1 minute et 3 secondes de retard sur Denise Hermann Wick, l'Allemande qui est en tête donc de cette poursuite, qui avait remporté le sprint, et ça commence à se payer les efforts depuis le début de la poursuite pour Julia Simon, qui intrinsèquement est une skieuse moins rapide, un tout petit peu moins rapide que Denise Hermann. Elle s'accroche dans la dernière difficulté avant de plonger vers le stade. Julia Simon, elle est à 4 secondes de Denise Hermann. Julia était repartie en tête du pas de tir après le troisième tir, mais donc Denise Hermann a accéléré, a fait parler sa puissance sur les skis pour essayer de distancer un tout petit peu Julia Simon. Mais là, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a clairement rien qui est fait dans cette poursuite. Ça va se jouer sur ce dernier tir. On rappelle les conditions du brouillard très épais qui s'intensifie au fur et à mesure de cette poursuite. On a du mal à apercevoir les biathlètes, même sur les images, tellement il y a de brouillard. Et on rappelle aussi que Julia, c'est un peu la spécialiste de ces grosses remontées, de ces folles remontées. Pas plus tard qu'en début de saison, sur la première poursuite à Contiolati, elle s'était lancée avec le dossard 16 et elle s'était imposée. Julia, leader du classement général de la Coupe du Monde. Et c'est maintenant que ça va se jouer, une première médaille mondiale individuelle, peut-être déjà pour Julia Simon, et pourquoi pas l'or. Elle sera face donc à Denise Hermann, qui va être acclamée par les 24 000 et 25 000 spectateurs ici présents sur ce stade de biathlon d'Oberhof. Elles font leur apparition derrière le pas de tir. Denise Hermann est arrivée avec 3 secondes d'avance sur Julia Simon. Faire redescendre les pulses, essayer de bloquer sa respiration, de faire redescendre un peu toute l'acide lactique qui est dans les jambes. C'est un tir debout, c'est le dernier tir debout, le face à face. Denise Hermann, Julia Simon, qui va tirer en premier. Denise Hermann s'est installée un peu plus rapidement, évidemment elle est arrivée un tout petit peu avant, et c'est Julia Simon qui lâche la première balle. C'est dedans, 1 sur 1, 2 sur 2 pour Julia Simon, c'est hyper engagé, 3 sur 3, pas d'erreur pour Denise Denis Hermann. Une erreur pour les deux, une erreur de chaque côté. Attention, Julien repart, la dernière balle pour Denis Hermann. La pression sur Denis Hermann qui craque. Le titre mondial pour Julien Simon, qui va tourner une seule fois sur la note pénalité, alors que Denis Hermann, elle, va effectuer deux tours, et Julien Simon va repartir seul en tête, puisque derrière la troisième, l'Allemand Schneider, est à 48 secondes, donc ils ne la reverront pas. Julien Simon, un dernier tour pour la gloire, 2 km à parcourir pour aller décrocher le premier titre mondial, la première médaille même tout court dans sa carrière. Ce sera de l'or pour Julien Simon. Quelle folle remontée!
C'est incroyable ce qu'on a vécu quand même avec toi, Julien. C'est là qu'on voit le mental aussi de Julia Simon, parce qu'elle était déçue après le sprint. Elle disait, elle avait de la pression sur les épaules. Et là, elle a su la gérer parfaitement aujourd'hui. Hein.
C'est incroyable. Mais en fait, c'est une course qui correspond totalement à son tempérament. C'est une bagarreuse. Elle ne lâche rien. Un énorme tempérament. Et c'est clair que je te parlais de cette double faute sur le sprint. C'était ses deux dernières balles. Elle était à 8 sur 10. Elle a raté les deux dernières. Et ça, je peux te dire que, évidemment, ça lui est resté en travers de la gorge et qu'elle s'est dit qu'elle ne referait pas l'erreur. Là, elle tire à 19 sur 20. Donc, c'est exceptionnel. Et surtout, dans la manière de faire sur ce dernier tir, la pression mise sur l'Allemande Denise Hermann, qui est arrivée avant. Et Denis Hermann s'est installé 3 secondes avant, donc c'est pas grand chose, mais ça lui permet d'être, pourquoi pas, de tirer la première, de mettre la pression. Et bien au contraire, Julia Simon, très intelligemment, a lâché en premier cette première balle et a mis la pression sur Denis Hermann qui a craqué sur ce dernier tir, alors que Lou-Jean Monod va faire une belle remontée, l'autre française également, et Sophie Chauveau va malheureusement commettre une autre erreur. Mais pour le podium, maintenant c'est bouclé, il n'y aura pas deux françaises sur le podium, mais Lou-Jean Monod va prendre une superbe 6ème place, peut-être, en tout cas elle va jouer la 6ème place, le top 10 dans cette poursuite, alors que Julia Simon est en piste pour les deux derniers kilomètres. Alors faut pas lâcher, parce qu'attention, hein, Denis Hermann, 28 secondes de retard, elle les rattrapera pas, mais quand même elle est très très rapide sur les skis. Elle pourrait pourquoi pas tenter de mettre la pression sur ce dernier tour, mais elle ne reviendra sauf incident pas sur Julia Simon. Faut quand même rester concentré sur les deux derniers kilomètres à parcourir pour la française.
2 km, ça veut dire combien de temps à peu près encore pour la ligne d'arrivée?
Ça veut dire, écoute, là, 3 bonnes minutes.
Ok, et écoute, on va en profiter pour faire une petite pause et on revient te voir après pour l'arrivée de Julia Simon. A tout de suite sur RMC, les 13h53, la première médaille d'or dans ces championnats du monde pour l'équipe de France, et évidemment à vivre sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Flora Moussi. Et une Marseillaise à venir dans cet Intégral Sport sur RMC avec Julia Simon, qui va décrocher la première médaille d'or dans ces mondiaux de biathlon. À Oberhof, Julien Richard, on y est presque.
Ah, championne à réaction, Julia Simon qui a le temps de savourer, d'aller taper dans les mains du staff en haut de la dernière montée et de se mettre en chousse. Elle n'en revient pas. Alors je peux dire qu'il y aura de la fatigue parce qu'elle a donné énormément, mais Julia Simon, dans quelques instants, va décrocher la première médaille individuelle mondiale de sa carrière, et en plus elle sera en or. Quel scénario, alors qu'elle s'était lancée avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur l'Allemande Denise Hermann. Vic, eh bien, quasi sans faute, 19 sur 20 derrière la carabine. Elle a mis la pression sur le dernier tir sur l'Allemande, championne du monde du sprint, pour aller s'offrir un dernier tour tranquille, presque. Et voilà, la voilà qui déboule devant l'immense tribune du stade de biathlon d'Oberhof. La voilà qui déboule sur la ligne droite, vers la ligne d'arrivée, vers l'or, vers le titre mondial. Elle se prend la tête dans les mains, elle n'en revient pas. Julia Simon, le poing levé. Julia Simon, championne du monde de la poursuite ici à Oberhof. Ah, elle tombe, elle craque complètement là, elle se prend la tête dans les mains. La joie du staff tricolore, Jean-Paul Giacchino, l'entraîneur du tir, qui a été très important dans l'éclosion de cette championne, qui jusqu'à l'an dernier avait des difficultés, notamment sur le tir couché, qui en a fait son point fort désormais, qui leader de la Coupe du Monde de biathlon. Elle a le dossard jaune sur le dos et elle décroche une médaille en or. Julia Simon, oh, l'émotion formidable dans l'air d'arriver, c'est rare de la voir comme ça. Elle enlace Denise Hermann Wick, qui prend la deuxième place de cette poursuite. Julia Simon, donc, vainqueur ici de la poursuite à Oberhof.
La première médaille d'or dans ces mondiaux. Merci beaucoup, Julien Richard, de nous avoir fait vivre cette belle médaille de Julia Simon, qu'on espère l'avoir tout au long de l'après-midi. On attend les réactions à ton micro, Julien, dans ces mondiaux à Oberhof.
RMC, Intégral Sport.
Flora Moussi. 14h01 sur AMC. Merci de nous rejoindre dans l'Intégral Sport. On a vécu il y a quelques minutes la première médaille pour l'équipe de France, la première médaille d'or pour l'équipe de France dans les championnats du monde de biathlon. Julia Simon, sacrée championne du monde sur la poursuite à Oberhof. Réaction de la Française évidemment à suivre cet après-midi sur RMC. Nous, on va retourner avec Manu Amoros qui est toujours là. Ça va Manu, t'as bien aimé la Marseillaise?
Ah ben oui, complètement.
Ça fait toujours bien longtemps.
Non, ça fait toujours plaisir de voir un athlète français s'imposer comme ça. Mais la différence s'est faite au tir. Hein. La pression a été plus sur l'allemande que sur la française et c'est beau à voir.
C'est toute la subtilité du biathlon, effectivement, entre l'effort du ski et la concentration du tir. La concentration, on va la retrouver aussi avec Paul Lafitte du côté du stadium. Les Rennais, ils en ont manqué un petit peu de concentration dans cette première période.
Hein. Oui, légèrement, en tout cas, entre la 27e et la 37e, 10 minutes où les Rennais ont coulé 1-0. But de Ratao, le doublé pour Abouklal et le troisième but pour Dalinga. Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, Flora, qui vient de débuter, ce sont les Toulousains qui ont donné le coup d'envoi donc de cette deuxième période. Et une première faute toulousaine, le ballon rendu à des Rennais. Manu, on espère une réaction évidemment de cette équipe drivée par Bruno Genesio, qui aura coulé, on l'a dit, en l'espace de 10 minutes, mais qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. On avait vu une très très belle action en fin de première mi-temps et la barre transversale trouvée par le meilleur joueur rennais, Jérémy Doku, de ses 45 premières minutes. Sera suffisant pour voir les Rennais revenir au score, en tout cas on l'espère pour l'enjeu, car pour l'instant Toulouse a tué eh bien l'enjeu de cette partie. Et les Toulousains qui repartent à l'assaut du but rennais, peut-être un contre en première intention, la frappe en le temps, finalement le ballon contré qui revient dans les pieds d'Abouklal. Abouklal pour la frappe un petit peu déséquilibré d'un joueur toulousain. On en reste là donc, ce score de 3-0 et les premières secondes, Flora et Manu, de cette deuxième mi-temps.
Et on va retrouver un Toulousain qui doit être heureux, c'est Jeannot Rességuier qui va nous commenter tout à l'heure le Lyon Lens qui nous attends. Ça va Jeannot?
Oui, hey, bonjour. Salut, bonjour. Salut, Manu. Ah, j'ai tout fait pour arriver à l'heure à Lyon, entre Clermont et Lyon, sur la route, prudemment, mais au moins, voilà, je me suis régalé sur la première période entre les images et Paul Lafitte aux commentaires.
Tu seras toi aux commentaires ce soir de ce Lyon-Lens, l'affiche à 20h45 de cette 23e journée de Ligue 1. J'ai envie de parler de l'OL d'abord parce que ça va mieux en ce moment en Ligue 1 et en plus, cette semaine, il y a eu la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France et ça va faire du bien aux têtes lyonnaises.
Hein. Oui, Lyon n'a plus perdu depuis 5 matchs toutes compétition confondue, alors même s'ils menaient 2-0 et qu'ils se sont fait rejoindre de partout face à Lille en Coupe de France, c'est qu'il a fallu les tirs au but pour passer. On a l'impression que, je sais pas ce que Manu en pense, mais Laurent Blanc a peut-être trouvé l'équilibre au niveau de son équipe, déjà au niveau de l'animation avec le 4-4-2 en losange, avec un Cherki de plus en plus titulaire derrière les attaquants Lacazette et le jeune Barcola. Je trouve que ça doit certainement amener, on va dire, un équilibre dans cette formation, au-delà de Cacré et Le Penant au milieu de terrain, pour aider Tolisso. Et il restera toujours ces petits détails en défense, avec Lovren, avec Diomandé, et de savoir comment cette équipe de Lyon va pouvoir résister aux assauts offensifs de Lens ce soir. Mais c'est vrai que c'est un véritable test, d'autant plus qu'à domicile, ça reste toujours compliqué. Hein. Il reste sur 4 sans victoire pour l'instant les Lyonnais.
Ouais, Manu, tu vois ce renouveau toi chez les Lyonnais?
Bah, il faut l'espérer parce que d'abord c'est déjà un grand club notre championnat et c'est toujours dommage de voir un club comme ça perdre de confiance et perdre ses valeurs qu'ils avaient auparavant. Mais ça malheureusement le terrain, il y a que le terrain où on peut vraiment avoir cette vérité de jeu. Et c'est vrai que ça reste un bon match, un match à regarder, un match où ça va être peut-être compliqué pour Lens parce que quand on rencontre une équipe de tableau, on est toujours motivé à vouloir gagner les matchs. Donc j'espère que ce soir, avec ce petit renouveau qu'il y a eu contre Lille, même s'ils se sont fait rattraper, comme Jeannot le disait, 2-0, 2-2 et gagné au pénalty, c'est pas évident, mais voilà, on espère avoir un bon match et avec beaucoup de buts.
Est-ce que du coup, Jeannot, se renouveau un petit peu cette qualification en quart de finale de la Coupe de France, ça a calmé un petit peu les ardeurs des supporters lyonnais, qui étaient assez vindicatifs hein, ces dernières semaines contre la direction notamment?
Mais oui, on se souvient des images fortes avec le bus qui avait été secoué à l'arrivée au stade, avec des fumigènes et certains qui étaient présents dans le bus, dont le président Aulas, qui avait été assez effrayé. Ce match contre Lens avait été ciblé par les supporters. Au niveau de la sécurité, on va être vigilant ce soir. Mais c'est vrai que la qualification Coupe de France a peut-être apporté, je vais pas dire de la sérénité, parce que les supporters sont quand même
un apaisement peut-être.
Oui. On a ça coupé avec Jeannot, on va le retrouver. Ah. Mais c'est vrai, Manu, que on a la sensation que c'est toujours assez tendu quand même entre les supporters lyonnais et la direction. On a du mal à trouver des terrains d'entente. Et il y a évidemment d'un côté les résultats sportifs de l'équipe sur le terrain, mais à côté, ça reste tendu avec la direction, quoi qu'il arrive.
Ouais, ça reste toujours tendu parce que les joueurs ne font pas non plus les efforts nécessaires pour gagner des matchs. Alors il y a peut-être des blessés, des suspendus, mais bon, il faut trouver un équilibre, comme Jeannot le disait, entre le terrain et l'entraîneur et le staff et ce qu'il peut proposer au niveau des entraînements. Je dirais contre Lille, c'est une belle victoire, une victoire de prestige contre une équipe de tableau, mais c'est que la Coupe de France. Je pense que les Lyonnais, les supporters veulent grimper au classement pour pouvoir éventuellement l'année prochaine jouer une Coupe d'Europe, parce que Lyon ne peut pas se permettre de passer des années et des années sans jouer de Coupe d'Europe. Donc l'objectif, c'est la Coupe d'Europe, et pour l'instant, malheureusement, ils n'y sont pas.
Ça passera peut-être par la Coupe de France, hein.
Ouais, c'est ça. Ce match contre Lens va peut-être permettre d'avoir de la sérénité aussi. S'il y a victoire ce soir, c'est ça dont le club a besoin. Parce qu'ils sont 9e, là, avant cette 23e journée, avec 30 points. La 5e place occupée avant cette journée par les Rennais avec 40 points. Il y a quand même 10 points d'écart. Donc, comme le dit Flora à juste titre, la Coupe de France avec une qualif en quart de finale, avec moins, on va dire, de prétendants par rapport à des grosses cylindrées du championnat. Il reste quand même Marseille et Lens pour ne citer que. Mais peut-être qu'en passant par la Coupe de France, il y a la possibilité d'aller chercher un trophée qui fait quand même défaut depuis 2012.
Oh, on a reperdu Jeannot.
Que l'Europa League, donc c'est pas l'objectif. Enfin, c'est un objectif, oui parce que c'est une Coupe d'Europe,
mais au point de vue financier,
c'est ça. Au point de vue financier, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est finir premier ou second pour pouvoir être dans les groupes et gagner davantage. Même se qualifier aujourd'hui pour la 3e place et passer par les tours préliminaires, ça serait une superbe opération pour Lyon. Mais Jeannot, il va manquer des points.
Désolé pour les coupures.
T'inquiète, Jeannot, on va parler un petit peu de Lens aussi, parce que c'est vrai que là, la dynamique, elle est tout autre. Il y a, et certes, la Coupe de France, mais c'est vrai qu'en championnat, il y a un vrai coup d'arrêt ces derniers matchs pour les Lensois.
Ils doivent se relancer, tout simplement. Alors, ils sont restés en Bretagne, justement, pour préparer ce match, un mini-stage, après la victoire au tir au but à Lorient jeudi. Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs. C'était le 22 janvier à Brest, en Coupe de France, et le 14 en Ligue 1 contre la JOCR. Ils restent sur 4 matchs à l'extérieur en Ligue 1. Dernière victoire, c'était le 5 novembre, c'est loin, à Angers, 2-1, pour une équipe qui a quand même été pendant très longtemps et reste, même s'ils ne sont pas tout seuls, avec les Marseillais, si jamais ils venaient à s'imposer ce soir du côté de Lyon, rester pendant longtemps le dauphin du Paris Saint-Germain. Donc, retrouver, oui, effectivement, de l'envie, de la réussite, du réalisme. Il y a ces recrues hivernales, Thomasson et Fulgini, qui ont fait, on va dire, de belles apparitions. Plus Thomasson que Fulgini devraient être titulaire ce soir. Retrouver de l'équilibre aussi au niveau défensif, toujours dans le même système, le 3-4-2-1, et puis après de voir de quelle manière, c'est parce que c'est sur les côtés d'ailleurs essentiellement que défensivement ça pêche un peu plus, voir de quelle manière eh bien cette équipe de Lens peut éventuellement se relancer au Groupama Stadium. Mais s'ils veulent rester au contact du podium, s'ils veulent rester encore une fois ambitieux, même si eux aussi peuvent compter sur la Coupe de France pour aller chercher l'Europe, ces Lensois ont une belle occasion ce soir de montrer qu'ils sont capables justement de rester au plus haut niveau dans le classement de la Ligue 1. Lyon, avec la pression de confirmer le renouveau, ça nous annonce peut-être une belle soirée, même si dans les paris tout à l'heure, certains osaient pronostiquer un 0-0.
On n'espère pas, effectivement. Merci beaucoup, Jeannot. On te retrouve à 20h45 pour le coup d'envoi de ce Lyon-Lens. Et c'est vrai, Manu, juste pour t'entendre sur les Lensois, parce que c'est vrai que ça a été vraiment un début de saison idyllique. Magnifique. pour les Lensois. Et c'est vrai qu'il peut être un sur-régime aussi, où ça commence un petit peu à tirer dans les jambes.
Ah bah c'est sûr que quand tu fais un début de saison comme les Lensois ont pu le faire, ça a été extraordinaire et ils ont emmagasiné énormément de points. Après tu peux pas être performant tout le temps, donc est-ce qu'ils ont un effectif assez large pour pouvoir de temps en temps changer des joueurs et faire récupérer certains qui sont titulaires depuis le début? Je crois pas, mais rien ne vaut la qualité de cette équipe lensoise qui nous montre énormément de qualité au niveau du collectif. mais au niveau beaucoup de buts et de la solidarité qu'il y a entre eux. Donc moi je me fais pas trop de soucis pour cette équipe lensoise. Je pense qu'elle va finir sur le podium.
On verra ce que ça donne. 20h45 pour ce Lyon-Lens juste avant, voilà, à 17h05.
Un but contre son camp du défenseur Dessler, suite encore une fois à une belle incursion dans la surface de réparation de Doku, mais finalement le défenseur du TFC qui trompe son gardien Maxime Dupé. Et bien Toulouse ne mène plus que 3 buts à 1 en joue depuis 55 minutes ici au Stadium de Toulouse.
Ouais, ça va peut-être relancer ce match, Manu et René.
Il faut espérer. Il faut espérer, mais là c'est une belle combinaison de coups qui centre. Mais tu vois, Dessler, il attaque pas le ballon. Ouais. Non, je crois que c'est Rouault qui attaque pas le ballon. Il attend, il met son pied en opposition, alors que je sais pas. En tant que défenseur, moi, je serais allé chercher le ballon et le dégager plus en corner que essayer de mettre mon pied en opposition et tromper le gardien.
En tout cas, Flora, pour ménager un petit peu de suspense, hein, puisque Toulouse menait sur la marque de 3-0, 3 buts marqués, on le rappelle, en l'espace de 10 minutes entre la 27e et la 37e. Eh bien, Rennes, reprend quelques couleurs malgré ce but contre son camp. L'intention était rennaise et donc ce 3 buts à 1, but contre son camp de Dessler, 3-1, la 55e donc ici à Toulouse.
Ouais, c'est vrai que ça peut peut-être nous relancer parce qu'on s'est dit à la pause, Manu, 3-0 pour les Toulousains, peut-être que le plus dur est fait. Ben non, finalement, on va avoir un peu de suspense dans cette seconde période. C'est pas
ouais,
plus mal.
un petit peu, mais je sais pas, les Rennais n'ont pas entamé la deuxième mi-temps avec des envies de vouloir aller chercher et de revenir au score. Donc là, ils jouent à la baballe au milieu de terrain, une petite erreur, un but contre son camp, voilà, ça peut relancer les Rennais, mais il faut qu'ils nous montrent davantage dans l'agressivité, dans le pressing plus haut, et ne pas attendre les Toulousains.
Et Manu, justement, tout à fait, parce que c'est vrai que si les Rennais ne sont pas repartis le couteau entre les dents, c'est tout l'inverse, hein, pour les joueurs de Philippe Montagnier, l'entraîneur du TFC, avec de belles intentions. Ils sont venus déjà à 3 reprises dans la surface de réparation, des frappes un petit peu trop écrasées, mais Toulouse qui veut encore une fois enfoncer le clou, même si là c'est un but contre son camp qui relance peut-être un petit peu cette partie. Ce score donc de 3 buts à 1, la 56e ici en deuxième mi-temps au Stadium de Toulouse.
Ouais, on va rappeler aussi, on parlait de la Coupe d'Europe tout à l'heure pour Lyon, pour Lens. On va rappeler que Rennes la joue, hein, cette saison, la Coupe d'Europe. Il y a les 16e de finale aller qui arrivent jeudi prochain en Ligue Europa face au Shakhtar. Manu, il y a des grands rendez-vous aussi à venir pour les Rennais, et c'est pas le moment de perdre des points notamment et de l'énergie en cours de route aussi.
Ouais, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain, si tu perds 3-1, Paris Saint-Germain a la même chose. C'est vrai que tu n'en abordes pas et tu prépares pas un match très important qui va arriver très rapidement. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je pense que les Rennais ont vraiment quelque chose à jouer dans ce championnat. Mais quand tu prends 3 buts en première mi-temps dans les situations que tu as vues et qu'on a vues, et que cette défense qui est très friable, c'est compliqué.
Ouais. C'est reparti, hein, avec Toulouse qui est toujours autant offensif, Paul, dans ce match. C'est quand même incroyable.
Ah ben oui. Ouais, Toulouse qui
se contente pas de ses 3 buts. Hein.
Non. Même s'il y a eu, on le rappelle, hein, il y a quelques instants, la réduction de l'écart. On va suivre ce contre Rennais avec, bien dans le couloir droit, encore une fois, Jérémy Doku. La belle passe dans la surface de réparation, peut-être en deux temps, et la tête. C'était une vraie opportunité là, avec un centre d'Adrien Truffert, et finalement le ballon qui reste Rennais avec peut-être un centre au deuxième poteau. Attention, sauf qu'il peut dans la défense du TFC, finalement en trois temps les Toulousains vont peut-être récupérer ce ballon. C'est un Rennais qui bien au combat capte ce ballon et la frappe. Oh, et la belle sortie de Maxime Dupé. Le tir était cadré il y a quelques petites secondes. Quelle belle intention de Désiré Doué, hein. Il a fallu toute la vigilance de Maxime Dupé. On va suivre quand même, Flora et Manu, ce corner évidemment des Rennais qui sont en train peut-être de relever la tête avec ce but contre son camp de Dessler suite à une incursion dans la surface de réparation de Doku. Finalement, ils vont peut-être retrouver quelques couleurs ici dans ce stadium ensoleillé, baigné de soleil, 11 degrés, des conditions quasi idéales donc pour ce match de 13h ici, 23e journée de Ligue 1. Ce corner tiré de la gauche vers la droite, peut-être au premier poteau, la tête, le dégagement de Brecht de Jägereux, et finalement, au ballon, ce sont les Toulousains qui vont peut-être récupérer. Non, finalement Doku qui fait l'effort pour récupérer ce ballon, qui va le transmettre directement devant Steve Mandanda. Mandanda qui va jouer peut-être sur le côté gauche. En tout cas, le suspense est un petit peu relancé, hein. Flora et Manu ici à Toulouse, même si le score est toujours largement à l'avantage des joueurs de Philippe Montagnier qui mène 3-0. On va rappeler d'ailleurs les buteurs. Ratao à la 27e, Abouklal pour le 2-0 à la 28e, Dalinga pour le 3-0 à la 37e, et puis ce but contre son camp à la 54e de Dressler qui relance un petit peu les débats entre Toulousains et Rennais.
Il va s'en passer des choses dans ce match. Il reste encore beaucoup de temps, encore une demi-heure de jeu qu'on va vivre évidemment dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. Il est 14h16. Restez bien avec nous sur RMC. On revient dans quelques instants. On va vous présenter aussi les affiches du Multiplex Ligue 1 qui vous attendent à 15h sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC.
Ah, j'ai trouvé un super concept d'émission. Si tous les après-midi, on réunissait une bande autour de moi, toi, pour parler de sport dans la bonne humeur.
Bah, ça existe déjà, Vincent.
Ah oui, et ça marche?
Bah, hyper bien. C'est un succès depuis 15 ans sur RMC.
Ah, ben tu vois, je savais que c'était une bonne idée.
Mais Vincent, c'est le Super Moscato Show. C'est ce qu'on fait depuis 15 ans tous les après-midi sur RMC. 15h, 18h. Ça te dit rien?
C'était vraiment une bonne idée, alors.
Bah oui, le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
BMW. Faites l'expérience du plaisir de conduire 100% électrique avec la BMW X. Le nouveau SUV compact BMW. Laissez-vous guider par son nouvel écran panoramique incurvé et sa navigation en réalité augmentée. En ce moment, la BMW iX Finition X-Line est à 590€ par mois, sans aucun apport.
Exemple pour une BMW iX X-Drive 30 X-Line. LLD 36 mois, 30 000 km, réservé aux particuliers si accord par BMW Finance. Offre valable jusqu'au 31 mars 2023. Détails sur BMW.fr. Pensez à covoiturer.
Histoire d'or présente la Saint-Valentin de tous les amoureux.
À ceux qui aiment passionnément ou qui n'en sont qu'au début. À ceux pour qui aimer s'écrit au fil des années et ceux pour qui amour ne rime pas vraiment avec toujours.
Il y a autant de façons d'aimer que de bijoux Histoire d'Or. Trouvez le vôtre dans l'une de nos 400 bijouteries sur histoiredor.com. Jusqu'au 14 février, des 99€ d'achat, un duo de pochettes vous est offert. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux.
Aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est difficile. Avec la hausse des taux, les mensualités augmentent et la situation...
Excusez-moi, j'adore hein, la musique triste, les violons, tout ça, mais vous savez qu'avec Cogedim, devenir propriétaire, c'est toujours possible?
Ah bon? Non, je...
Bah oui, Cogedim s'engage pour votre pouvoir d'acheter et vous rembourse jusqu'à 600€ par mois pendant 4 ans pour l'achat d'un appartement neuf Cogedim. Et ça, ça allège vos mensualités.
Je vais sur cogedim.com alors?
Voilà. Détails et conditions de l'offre sur cogedim.com.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. L'Intégral Sport vous accompagne jusqu'à 15h. On laissera la main après à Benoît Boutron, Sébastien Piocel pour le Multi Ligue 1 dans l'Intégral Foot. Moi, je suis avec Manu Amoros et on se régale avec ce Toulouse-Rennes et Paul Lafitte parce qu'il s'en passe des choses dans ce match. Il y a déjà un gros score et pourtant, on a l'impression qu'il peut se passer encore plein de choses. Hein.
Ah oui, on a vu une nouvelle occasion pour les Rennais il y a quelques instants. La grande vigilance sur sa ligne de Maxime Dupé. Ce score de 3 buts à 1, Flora. Et on va rendre à César ce qui appartient à César. Le but contre son camp. Manu avait bien raison. Cette roue et non. Dessler, hein, qu'il a mis dans les filets de son gardien Maxime Dupé, mais Toulouse qui avait fait, j'ai envie de dire, le métier lors des 45 premières minutes avec eh bien 10 minutes de folie qui ont fait soulever le stade ici au stadium. Ratao, Abouklal et Dalinga, le meilleur buteur toulousain depuis le début de la saison avec cette 8e réalisation et ce score acquis à la pause, donc de 3-0. Et c'est vrai que ce but contre son camp, Manu et Flora relancent un petit peu la machine et l'entrée en jeu, eh bien à l'instant même, de Karl Toko Ekambi, lui qui était annoncé titulaire cette semaine dans les rangs rennais, qui finalement rentre à la 62e pour la dernière demi-heure de jeu ici au Stadium. Changement également côté toulousain avec l'entrée de Denis Genreau, des forces vives donc au TFC pour gérer un petit peu, et la sortie côté toulousain de Fares Chaibi, lui auteur de deux frappes qui ont amené les deux premiers buts, le premier de Ratao et le deuxième d'Aboukal. Mais comme tu le précisais, Flora, suspense ménagé, il reste encore eh bien 28 minutes à jouer avant le temps additionnel et il peut s'en passer des choses. On avait vu donc Rennes revenir eh bien dans la surface de réparation avec Doku en deux temps, mais également la frappe de Désiré Doué. Autant dire qu'ils ne sont pas encore complètement morts, les Rennais, même si Toulouse a la main mise pour l'instant sur cette partie et ce score de 3-1. Une grosse faute là, c'est un joueur toulousain qui est au sol à Abouklal. Le coup de sifflet encore une fois de Jérémy Stinat. Les Rennais qui sont en train de relever, Manu, la tête doucement dans cette partie, même si le score est encore largement à l'avantage hein, des joueurs de Philippe Montagnier.
Oui, ouais, doucement, hein, parce que le seul attaquant dangereux, c'est Doku, qui provoque, qui frappe, qui met de l'intensité dans ses phases de jeu qu'il fait. Mais Guiri, on le voit pas. Calumondo, il vient de sortir, mais on l'a pas vu de tout le match. Doué, qui on a l'impression que voilà, quand ça va, quand il a le ballon, il peut aller attaquer, mais c'est quand même assez brouillon, quoi, tout ça. Donc et c'est pour ça que j'arrive pas à me projeter que les Rennais vont pouvoir revenir au score, parce que déjà la mise en place des Toulousains, elle est superbe. Quand ils ont perdu le ballon, ils se remettent en 4-4-2 tranquillement et ils attendent, ils reculent pas trop. Donc il y a pas de solution, il y a pas beaucoup de mouvement de la part des Rennais. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète du côté des Rennais.
Ouais, effectivement, vous apprécierez les précisions techniques de Manu Amoros évidemment sur cette partie entre Toulousain et Rennais. En tout cas, ce serait une très très belle opération, hein, pour les joueurs toulousains que de s'imposer face à Rennes. On le rappelle, dans le top 5 de ce championnat, on va suivre évidemment cette action avec peut-être en deux temps un joueur Rennais qui est au sol, Adrien Truffert, lui au four et au moulin depuis le début de cette partie. Finalement, c'est une sortie de but et un dégagement pour Maxime Dupé, 3 buts à 1, et là 65e Toulouse.
Et ça chante, hein, dans les tribunes.
Ouais, mais c'est une superbe ambiance. Florent, on le disait, hein, une après-midi de rêve pour les joueurs du TFC. Match à 13h, 12 degrés, un grand soleil, un stadium qui est quasiment en plein, qui le sera évidemment lors de la venue de l'Olympique de Marseille, dauphin du Paris Saint-Germain au classement de cette Ligue 1. La fête sera belle, mais elle est très très belle cet après-midi. Vraiment, franchement, très très belle ambiance. Et un bon match de football avec des Toulousains qui ont pris le taureau par les cornes, qui avait été, on le rappelle, hein, largement dominé dans la possession de balle durant les 20 premières minutes et qui ont su trouver des solutions avec deux buts en deux minutes et bien un triplé en l'espace de 10 minutes. Ce but contre son camp va-t-il relancer les Rennais? En tout cas, Toulouse qui remet encore une fois le pied sur le ballon dans l'entrejeu. Ils sont plutôt pas mal les Toulousains, même si Karl Toko Ekambi est en train de mettre une grosse pression sur un joueur toulousain, Steen Spierings, qui est au sol, qui se prend les chevilles à deux mains, peut-être un carton à venir. Pour un joueur rennais, petit arrêt de jeu, l'occasion peut-être, Flora, de tourner en rappelant ce score donc de 3 buts à 1 en faveur de Toulouse face à Rennes ici au Stadium de Toulouse.
On va prendre des nouvelles avec toi dans quelques instants, du Toulousain, voir s'il se relève. Mais effectivement, la 23e journée de Ligue 1, elle continue, hein, juste après, on vous l'a dit, le 15h, le multiplex. On va vous présenter les 4 affiches au programme. Et d'abord, un très beau Lille-Strasbourg avec Jean Baumel. Salut Jean.
Salut Flora, salut Manu, salut, bonjour à toutes et à tous.
Et on attend, hein, la réaction des Lillois, on en a parlé, hein, tout à l'heure, battu en Coupe de France par Lyon. On attend, hein, cette réaction des Lillois aujourd'hui en Ligue 1.
Bah, surtout que la place européenne qu'ils espèrent décrocher en fin de saison ne passera que par le championnat, où ils sont pas trop mal. D'ailleurs, pour les Lillois, le résultat négatif des Rennais les intéresse de près.
Le double poteau toulousain, incroyable, alors incroyable. Que Steve Mandanda a été battu. La première occasion, le plat du pied, il trouve le poteau, le joueur toulousain, le ballon qui revient, me semble-t-il, dans les pieds, je ne sais pas, d'Abouklal, qui avait bien, vraiment le but ouvert pour le 4-1. Alors là, c'est un miracle que Rennes n'encaisse pas un quatrième but sur cette action de folie. Ouais, on revoit au ralenti. Oh, Abouklal qui manque l'immanquable, hein, qui manque le 4-1. On en reste là, donc ce score de 3-1. On joue la 67e à Toulouse.
Manu, là, c'est incroyable quand même. Enfin, l'action, et c'est fou qu'il n'y ait pas but pour les Toulousains, là, sur cette action.
Ah oui, oui. Déjà, l'action, elle est belle parce qu'il y a un centre en retrait, alors qu'on a vu tous les Rennais partir au premier poteau et ne pas penser que si jamais il y a un centre en retrait, il n'y avait personne. Et après, c'est vrai que la finition d'Abouklal, c'est un peu dommage parce qu'il doit la mettre, ça va, il doit la mettre. Parce qu'il est à 2 mètres, quoi, à 2 mètres. Et pied gauche,
il est juste devant. Poteau.
Ouais, derrière Manu, Rennes qui tente sa chance, hein, avec Amine Guiri, qui trouve, eh bien, son.
Mais c'est encore Doku qui est sur le côté, qui frappe, qui met de l'animation vraiment offensive.
Ouais, et on aurait pu passer du 4-1 au 3-2, Florent.
C'est pour ça que je te disais qu'il peut se passer plein de choses dans ce match. On a l'impression que des deux côtés, ça peut se décanter. Donc,
en tout cas, ça joue et on se régale cet après-midi ici à Toulouse, hein, dans cette affiche entre le TFC et Rennes. Donc, toujours ce score de 3-1. On entame la 69e, quasiment la dernière partie de cette rencontre. Donc, 3-1 pour Toulouse face à Rennes.
On retrouve Jean Baumel. Pardon, Jean, mais il s'en passe des choses aussi.
C'est normal, quand il y a des actions chaudes, il faut que Paul voilà, il me rentre dedans.
Ouais, attention à la faute. L'énorme faute de Steve Mandanda et qui était sorti de sa surface de réparation sur Aboukhal. Et il demande Steve Mandanda, et bien aux joueurs toulousains de se relever. Oh, non, finalement.
Il y avait en jeu.
Ouais, il y avait en jeu
au départ. Ouais, ouais.
Il y avait en jeu.
Parce que là,
on aurait pu sortir le premier carton rouge de cet après-midi. Ouais. On en reste là. On rend la parole à Djibo, à Jean Baumel, évidemment. 3 buts à 1 pour Toulouse. Les 20 dernières minutes ici au Stadium.
On présente ce Lille-Strasbourg qui vous attend à 15h dans le multiplex Ligue 1 avec Jean Baumel. Donc, et on le disait, qu'on attendait la réaction des Lillois après l'élimination à frustrante en Coupe de France face à Lyon.
Ouais, c'est vrai, je vais vous parler de Coupe d'Europe, hein, qui est l'objectif, hein, pas affiché totalement, mais on le sait, c'est l'objectif du club à la fin de saison. Donc, plus de Coupe de France où, c'est vrai, ils sont menés. Alors, il y a beaucoup d'erreurs défensives de la part des Lillois. On l'avait vu à Rennes, mais ils avaient gagné à Rennes il y a une semaine. Ils ont fait deux erreurs contre Lyon en début de match. Ils sont revenus à 2-2 et encore une fois, dans le jeu, ils sont intéressants, les Lillois. Ils auraient même dû s'imposer à Lyon. Mais voilà, ça s'est joué à la séance de tir au but. Donc, Lille doit tout simplement continuer à montrer ce qu'il fait en match et surtout être efficace et prendre des points. Donc, en plus, ils ont peut-être l'opportunité, si le résultat se confirme avec une victoire de Toulouse, eh bien, ils pourraient pour alors, je compte pas les premières journées de championnat, mais depuis un moment, ils étaient pas loin de rentrer dans le top 5, mais ils y arrivaient jamais. Chaque fois qu'ils ont l'opportunité, là, si Rennes perd, eh bien, s'il gagne, Lille, il passe devant, il serait au moins cinquième. Donc, voilà, il y a une bonne opportunité face à une équipe de Strasbourg qui galère totalement en championnat, hein, qui enchaîne pas mal de déconvenues. Alors, il y a certes la victoire contre Montpellier qui a fait du bien, hein, mais voilà, ils sont pas sauvés pour autant avec pas mal d'absents. Du côté de la compo lilloise, bah, il n'y a qu'une petite surprise. Hein, c'est on pensait voir André Gomes qui est très bon. Alors c'est vrai qu'il est un peu fragile physiquement. Ça sera Angel Gomes qui sera sur le banc. Pour le reste, devant, on aura un couture offensif très intéressant. Même Angel Gomes qui se projette pas mal. Donc avec Bamba, Cabella et Zegrova et puis David en pointe. Et du côté de Strasbourg, aucune surprise concernant la compo du coach strasbourgeois.
Merci beaucoup Jean Baumel. On te retrouve tout à l'heure à 15h pour le Multi Ligue 1 évidemment sur RMC. Manu, je vais avoir ton avis sur cette rencontre tout de suite parce qu'on parie sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Julian Boubnov. Salut Julian.
Salut Flora, bonjour tout le monde.
Salut.
Quelles sont les cotes aujourd'hui pour ce match?
La victoire de Lille est cotée à 1,45, le match nul 4,50 et la victoire de Strasbourg à 7,50. Lille 6e, Strasbourg 17e. Les deux équipes ont besoin de prendre deux points. Strasbourg pour sortir de la zone rouge et Lille pour essayer de se rapprocher un petit peu de l'Europe. Jean l'a dit, si jamais Lille gagne ce match-là face à Strasbourg et que le score en reste là entre Toulouse et Rennes, Lille pourrait reprendre la 5e place au Rennais. Strasbourg n'a pas gagné face à Lille depuis le 16e de finale de Coupe de la Ligue en 2018, donc ça commence à remonter. Et Lille, et Lille à domicile cette saison, c'est aucune défaite depuis août et la défaite face à Nice. Donc ça risque d'être très compliqué pour nos amis strasbourgeois. C'est pourquoi je vois Lille l'emporter 1-0, 2-0 ou 3-0. Ça s'est coté à 2,50.
Manu, quel serait ton pari toi sur ce match-là?
Ouais, moi aussi je vois la victoire de Lille avec un but de David. C'est un peu moins que je crois que Julien.
C'est juste un tout petit peu moins et j'étais parti sur ça en plus au début. Lille plus Jonathan David, c'est coté à 2,30 et Jonathan David tout seul, c'est coté à 2,10.
Bon, c'est pas si mal que ça.
C'est pas si mal que ça. C'est plus que doubler la mise, donc c'est très bien.
Exactement. Merci beaucoup, Julien. Tous les paris à retrouver évidemment sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La 23e journée de Ligue 1 qu'on suit en ce moment. Toulouse mène toujours 3 buts à 1 à domicile face à Rennes. Autre affiche du multi-Ligue 1 qui vous attend à 15h, c'est Angers face à Auxerre avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Flora. Salut Manu. Salut. Bonjour à tous.
Les deux équipes qui ont la pire série en cours de Ligue 1, t'as tiré le gros loto aujourd'hui pour le match Xavier.
Oui, c'est vrai.
Mais qui ont réussi quand même à ne pas perdre lors de la dernière journée, et ça c'est quand même à souligner.
Oui, c'est un petit événement. Ça faisait 7 défaites de suite pour Auxerre. Alors Angers, ils sont champions, hein, toute catégorie. 13 défaites de suite, ils sont rentrés dans l'histoire de la Ligue 1. Ils s'en seraient bien passés. Il y a eu ce 0-0 effectivement à Lorient. Alors on a presque envie de dire que c'est quand même un duel de condamnés vu l'état des forces, notamment pour le SCO. C'est en tout cas peut-être la dernière chance pour Angers, une sans victoire cet après-midi. On voit mal comment ils pourraient avoir encore un petit espoir. Donc c'est un duel qui veut tout dire. Hein. On a les deux pires attaques. attaque face à, aux deux pires défenses, à la pire équipe à domicile face à la pire équipe à l'extérieur. Enfin voilà, je peux vous les enfiler comme des perles. Deux équipes qui évidemment, Manu, on imagine, sont dans un trou total et qui ce match va être ou tendu ou peut-être, qui sait, sur une bonne surprise, totalement, totalement fou. Mais voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est un match clairement qui pourrait condamner une des deux équipes et notamment le SCO.
Ouais, Manu, c'est vrai que sur ce match-là, Auxerre en plus a été éliminé en Coupe de France par Rodez, donc la confiance, elle est clairement pas là.
Ah non, elle est pas là. Et puis bon, moi, tu vois, je vois Angers gagner ce match-là pour leur troisième victoire de la saison, donc c'est pas énorme, hein, parce que Auxerre aussi a gagné que trois fois. Voilà, ça va être un match compliqué, mais Angers a besoin de points pour pouvoir essayer d'espérer quelque chose. Mais ils sont tellement loin que bon, ben voilà, je vois la victoire d'Angers.
Okay. Dans la médiocrité, Manu, c'est vrai que sur les dynamiques actuelles, il y a du mieux quand même du côté du SCO. Donc c'est vrai qu'on pourrait éventuellement faire pencher la balance.
Voilà, c'est ça. La confiance est un petit peu du côté d'Angers que d'Auxerre.
Eh bien, réponse tout à l'heure à 15h dans le Multiligue 1. Merci beaucoup, Xavier. Lille, Strasbourg, Angers, Auxerre à suivre avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel. On vous présentera les deux autres affiches tout à l'heure. On retourne, nous, à la Ligue 1 en ce moment même, la 23e journée, avec le coup d'envoi à 13h de ce Toulouse-Rennes avec Paul Lachy. Est largement dominé par les Toulousains et dans un match où on ne s'ennuie pas du tout. Hein.
Ben non, on se régale et évidemment Flora depuis le coup d'envoi à 13h, la 75e minute ici au Stadium de Toulouse et ce score de 3-1 en faveur des joueurs de Philippe Montagnier qui menait 3-0 à la mi-temps, qui avait fait le break, qui avait fait sombrer les Rennais en l'espace de 10 minutes. Et puis il y a eu ce but contre son camp de Rouault qui a peut-être un petit peu relancé en tout cas provisoirement les joueurs de Bruno Genesieux et il y a eu quand même une double occasion. Immanquable hein, à la 67e, un premier plat du pied de Jean-Haut qui trouve le poteau et Aboukal qui récupère le ballon et le joueur auteur du deuxième but toulousain qui avait le but ouvert pour le score de 4-1 et finalement il trouve Aboukal lui aussi le poteau. On va suivre cette action, attention avec les Rennais qui viennent dans la surface de réparation, un centre au deuxième poteau et la frappe en première intention, le contre toulousain, ce n'est pas terminé avec Amine Gouiri qui essaie de se saisir de ce ballon en deux, en trois temps. Amine Gouiri qui commet une faute sur un joueur toulousain juste à la limite de la surface de réparation. Le ballon sera donc rendu aux Toulousains. Un petit peu d'imprécision, Manu, chez ces Rennais qui ont peut-être quelques occasions de revenir, pourquoi pas à 3-2 et de ménager le suspense dans ce dernier quart d'heure. Mais trop de fautes et trop d'imprécisions vont certainement coûter cher ce soir aux hommes, Manu, de Bruno Genesio.
Ouais, Paul, tu es optimiste pour les Rennais, toi. Hein. Moi, franchement, je ne les vois pas trop revenir parce que quand le porteur du ballon. Que ce soit Santa Maria qui a le ballon, il y a pas assez de mouvement. Gouiri n'a pas de, il y a pas, il bouge pas. Toko Ekambi qui vient de rentrer devrait davantage avoir de mouvement. Il y en a pas. Mathieu, c'est plutôt un milieu de terrain. Et je trouve que il y a pas assez de solutions aux porteurs du ballon. Donc et c'est assez stérile quand même des attaques. Si Doku ne fait pas une action et va vers l'avant par ses dribbles, par sa course, ben je trouve que les autres sont assez médiocres dans l'ensemble. Et on voit une équipe toulousaine qui est bien en place. Elle va faire le pressing du côté de Mandanda. Quand ils ressortent le ballon des 6 mètres ou un petit ballon, et ils se replient quand les Rennais ont le ballon vers le milieu de terrain. Donc c'est une équipe qui fait un bloc d'équipe formidable.
Alors, on va voir, il reste encore un quart d'heure éventuellement pour les Rennais pour revenir dans ce match. Il est 14h33 c'est pas tout de suite,
pressé,
mais c'est ça peut-être. C'est l'heure du défi hippique tout de suite.
RMC, le défi hippique
avec Dimitri Blanc-L'Œil en direct de l'hippodrome de Vincennes. Salut Dimitri.
Exactement, bonjour Flora, bonjour Manu, bonjour à tous. Alors juste avant de parler du Prix de France, je vais quand même aller voir Manu tout de suite. Est-ce que Manu, tu as ouvert ton
ah ben
journal,
oui,
pour
mais tu vas pas, tu
vas, Prix de France.
Mais bien sûr, mais tu vas pas y croire. Outsider, hein, mais un gros, hein, Fado Duchesne. Ah,
mais non.
Mais oui. Alors, je t'explique pourquoi. J'ai trois raisons.
Ah bah, dis-moi.
D'abord, Julien Lemaire ne mettrait pas ce cheval-là s'il pensait pas qu'il avait, il pourrait gagner. D'accord. Deuxièmement, c'est la première fois qu'il est déféré des quatre à l'attelage. D'accord. Et tu sais qu'il détient le record au monté avec une 11-1 sur 2175. Si tu enlèves les 75, c'est un cheval qui peut trotter une 10 voire une 9. Tu es d'accord ou pas?
Oui, ça, je suis d'accord. Sur le raisonnement, je suis d'accord avec toi.
Ouais, voilà. Donc moi je prendrais voilà. le 6, Fado Duchesne.
Ok, en outsider. Alors effectivement je rappelle.
Alors dans le quintet, hein, après c'est sûr que pour la victoire, il y a des chevaux un peu plus importants, mais pourquoi pas jouer ce cheval-là.
Oui, j'ai bien compris Manu que c'était pas pour la victoire, effectivement. Bon, on va voir ce qu'en pense notre auditeur qui nous a appelé au 32-16, c'est Christophe qui vient nous rejoindre. Salut Christophe.
Bonjour l'équipe.
Alors Christophe, t'en penses quoi là du conseil de Manu? Il est osé quand même, hein?
Ouais, je suis un peu dubitatif, on va dire. Hein. Je ne vois pas la moindre chance.
Ah, merci. Ah oui, carrément, toi. C'est à l'opposé, finalement.
Bon, t'as choisi qui, toi? Je reviendrai demain et pas toi, alors. Hein.
Bon, Christophe, tu choisis qui?
Bah, je vais prendre l'Empia BDSM. C'est un peu le choix de la facilité, mais elle vient de faire deuxième du Prix d'Amérique. Elle est bien placée derrière les ailes de la voiture. Et puis, Hookerberry n'a pas le patron, c'est le fils. Donc, voilà, je pense qu'elle peut prendre sa revanche.
Ok, c'est le numéro 5. Bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, le patron, je vais le prendre. Je vais prendre le numéro 10, Beads, avec Jean-Michel Bazir qui s'est installé derrière. Je sais qu'il va devoir avoir un bon parcours, hein, parce qu'il n'a pas un bon numéro. Mais je me dis quand même que quand le boss est là, le boss répond toujours présent. Donc, je vais m'opposer à toi avec ce numéro 10. Je rappelle la règle pour ceux qui nous écoutent. Si ton numéro 5 dans le quintet du jour termine devant le 10, tu reviendras demain et tu augmentes ta cagnotte au niveau du défi hippique. En tout cas, on se retrouve Flora Manu tout à l'heure à 15h15 pour le commentaire en direct sur RMC de ce Prix de France qui s'annonce exceptionnel. À tout à l'heure tout le monde.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Toujours 3-1 du côté de Toulouse face à Rennes. Il reste aller un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette 23e journée de Ligue 1. On y retourne dans quelques instants avec Manu Amoros. Dernière petite pause pour vivre la fin de ce match dans l'Intégral Sport sur AMC.
Intégral Sport,
Flora Moussi.
14h38, la dernière ligne droite dans l'Intégral Sport pour suivre la fin de match du côté de Toulouse face à Rennes avec Manu Amoros. Juste derrière, vous aurez le multi-Ligue 1 avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel. Et si c'est à l'image de ce Toulouse-Rennes, Paul Lafitte, on va se régaler hein, tout à l'heure. Hein.
Oui, effectivement, on rappelle le score de 3-1. On rappelle les buteurs, Ratao à la 27e, Abouklal à la 28e, Dalinga à la 37e pour un score acquis à la poste de 3-0 donc pour les joueurs de Philippe Montagnier. Et la réduction de l'écart, un but contre son camp de Rouault, c'était à la 54e. On a encore vu plusieurs incursions dans la surface de réparation de l'intenable, j'ai envie de dire, Jérémy Doucu, le meilleur Rennais cet après-midi. Mais dans la finition, les Rennais pêchent un petit peu cet après-midi alors que l'on procède à de nouveaux changement côté toulousain. Mais une stat assez folle, hein, Manu, on le disait en début de retransmission, Toulouse est l'équipe qui marque le plus de buts depuis le 1er janvier 2023, toutes compétitions confondues dans les 5 grands championnats. Ils en étaient à 3 buts par match et à 27 buts depuis le 1er janvier. Eh bien, ils restent sur ces statistiques assez folles avec 3 nouveaux buts cet après-midi, un total de 30 réalisations en l'espace de 10 journées, devant Manchester United, devant Bergame, devant le Real de Madrid ou encore devant le FC Barcelone. On parlait de cette puissance de feu des Toulousains en Ligue 2 la saison dernière qui avait permis aux joueurs de Philippe Montagnier de glaner justement ce titre et de remonter à l'étage supérieur. Et bien ils sont en train, Manu, de prouver qu'en Ligue 1 ils sont capables de marquer des buts avec encore cette démonstration de force et ce 3-1 à moins de 7 minutes de la fin de cette rencontre.
Oui, tu as raison de dire tout ça parce que Toulouse a une équipe qui est très compétitive dans le collectif, dans l'animation, que ce soit défensive ou offensive. Donc c'est une équipe qui est compliquée à jouer parce qu'elle joue bien en 4-4-2, même si au départ c'était un 4-3-3, mais c'est bien un 4-4-2 au fur et à mesure du match qui est arrivé avec des joueurs qui savent défendre bien comme il faut, ils savent bien se replier. Donc c'est une équipe qui apporte offensivement et chaque fois qu'ils ont des occasions, ben ils manquent pas la cible, hein, à part Abouklal tout à l'heure qu'il a tiré sur le poteau, mais ils manquent pas la cible, donc ça veut dire qu'ils sont assez en confiance quand même ces joueurs là.
Ouais, la 23e journée de Ligue 1 qu'on suit en ce moment même, donc avec ce Toulouse-Rennes 3-1 pour le TFC. Toute la journée aussi sur RMC, l'affiche ce soir à 20h45 entre Lyon et Lens, Nantes-Lorient à 17h05 et puis juste avant le multi-Ligue 1 à 15h avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel. On vous a présenté Lille-Strasbourg et Angers-Auxerre tout à l'heure, place aux deux dernières affiches et d'abord Montpellier-Brest avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut Flora, salut Manu, salut à tous.
Rien ne va plus hein, Julien en ce moment pour Montpellier, une seule victoire sur les six derniers matchs de Ligue 1. La tâche s'annonce quand même compliquée hein, pour Michel Derzakarian de retour.
Exactement, et on a fait une recette traditionnelle du côté de la paillade. On fait revenir un ancien après les Mézi, les Nouzaret, les Courbis. C'est donc Michel Derzakarian qui fait son retour sur le banc. Lui qui avait disputé son dernier match ici à La Mosson contre Brest et qui pour son premier match à La Mosson retrouve Brest, son ancien club. C'est une histoire de destin, nous a dit Michel Derzakarian. Mais oui, tu l'as dit Flora, la tâche paraît compliquée pour Michel Derzakarian qui nous a dit qu'il n'était pas un magicien mais qui a la mission de maintenir Montpellier d'ici la fin de la saison. Il a envie de voir des athlètes sur la pelouse, il a envie de renouer avec la victoire sur la pelouse de La Mosson. Montpellier qui n'a plus gagné ici depuis le 17 septembre dernier et la venue de Strasbourg. Mais oui, la mission semble compliquée, mais Michel Derzakarian veut ramener un petit peu de rigueur au sien de la paillade, du travail, de la rigueur, du combat. Voilà les valeurs sur lesquelles compte s'appuyer Michel Derzakarian pour sortir Montpellier de cette mauvaise passe. Et ça commence donc par Brest, c'était cet après-midi. Brest avec qui il était parti fâché, Brest qui en avait pris 7 à l'aller contre les Montpellierains. Il y a plein d'histoires dans ce match et ça nous promet un match emballant.
Manu, tu crois toi à ce retour de Michel Derzakarian à Montpellier?
Oh bah oui, parce que je pense qu'il a la force nécessaire, puis certains savoir-faire dans les équipes et qu'il prend chaque fois où il joue chaque fois le maintien. Donc il sait comment faire. Mais après, est-ce que les joueurs vont être à la hauteur? Parce qu'ils sont un peu traumatisés. Chaque fois, ils ne gagnent pas, même chez eux. Les trois derniers matchs contre PSG, Nantes et Marseille, ils les ont perdus. Là, c'est un concurrent direct à la relégation. Donc je vois bien Montpellier gagner ce match-là, oui.
On verra ce que ça donne à 15h. Merci beaucoup Julien Landry, tu seras évidemment au rendez-vous dans ce multi Ligue 1 tout à l'heure. Toujours 3 buts à 1 pour Toulouse hein, face à Rennes. On est rentré dans les 5 dernières minutes, on va retourner au stadium. Juste le temps de parler de la dernière affiche dans ce multi Ligue 1 avec Reims 3, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut Arnaud.
Bienvenue en Champagne.
Bienvenue, ben oui, en Champagne, jour de derby là-bas, avec une rivalité qui prend de l'ampleur hein, ces dernières années.
Alors il y a toujours eu cette rivalité, mais c'est vrai que Reims était souvent tourné vers Sedan, qui est parfois considéré par les supporters le vrai derby. Mais Reims et Troyes se sont énormément croisés ces dernières années. Et puis c'est la même région historique, la Champagne, Troyes, la capitale, la ville historique de la Champagne, là où il y avait les comtes de Champagne au Moyen-Âge, et Reims qui est évidemment la capitale économique de cette région. 120 km entre les deux villes et énormément de tensions. On a vu un tir de gaz lacrymogène derrière le parquage troyen. Je vous rassure, on est loin de Clermont-Marseille. Il n'y a pas eu de spectateurs indisposés, de joueurs indisposés, quelques spectateurs qui étaient uniquement dans les coursives, mais le vent a bien fait son job et a poussé les gaz vers l'extérieur du stade. Mais bref, on sent évidemment, sans mauvais jeu de mots, que ça pétille pour cette rencontre, surtout que les Troyens ont eu tendance à ne pas perdre contre les Rémois. Une seule victoire sur les 10 derniers derbys pour le stade de Reims, donc il y a vraiment l'envie cette année d'enfin gagner à la maison. On a fait revenir l'idole Cédric Forêt qui avait marqué une bicyclette il y a plus de 12 ans, qui avait permis à Reims d'aller chercher une montée en Ligue 1. Donc voilà, on fait venir les petits signes indiens, les petits signes positifs pour essayer de conjurer ce sort et presque cette malédiction dans ce derby de Champagne.
Ouais, c'est vrai Manu que Reims est assez impressionnant en Ligue 1, avec toujours pas de défaite. Ça s'enchaîne hein, là, cette série sans défaite, même s'il y a eu évidemment ce qui fait un petit peu tâche, l'élimination en Coupe de France face à Toulouse cette semaine hein.
Oui, complètement. Puis les Troyens ne voyagent pas bien, à part au mois de janvier, la victoire à Strasbourg 3-2. Sinon, ça a été que des défaites. Je vois mal aujourd'hui les Troyens résister à Reims.
Ouais, on verra ce que ça donne 15h pour ce derby de la Champagne. Merci beaucoup Arnaud et à tout à l'heure évidemment dans le Multiligue 1. Ce sera aux côtés de Benoît Boutron et Sébastien Piocel. Nous on va vivre la fin de match du côté de Toulouse avec Paul Lafitte face à Rennes. Est-ce que tu es toujours aussi enthousiaste Paul quand une possible remontée des Rennais?
T'es toujours confiant que les Rennais vont revenir?
On ménage un petit peu de suspense pour l'ensemble de nos auditeurs qui sont nombreux.
Mais tu as bien raison, parce qu'en soi il peut se passer encore beaucoup de choses.
Oui, on avait vu un corner il y a quelques instants, tiré de la droite vers la gauche côté Rennais qui n'a rien donné. La belle prise de balle dans les airs de Maxime Dupé, le gardien du TFC. Les Toulousains qui repartent à l'assaut du but Rennais avec peut-être eh bien, de précieuses secondes glanées par un joueur toulousain. Oui, c'est ça. C'est en deux temps que Ado Oneiwu qui est rentré il y a un petit peu moins de 5 minutes essaie de conserver ce ballon. Et on voit la belle attitude d'un joueur toulousain qui demande au public eh bien, de pousser derrière cette équipe du
TFC qui va à n'en pas douter s'imposer dans quelques instants et remporter sa 9e victoire de la saison en Ligue 1. Ce score de 3-1, il y aura quelques minutes dans le temps additionnel, mais Toulouse aura fait le métier durant ces 10 minutes de folie, hein, Florent et Manu, entre la 27e et la 37e, avec des buts de Ratao, des buts d'Abouklal, des buts de Dalinga pour ce score donc de 3-0. Et cet excellent résultat va permettre à Toulouse de revenir eh bien, à hauteur de Lyon, qui jouera ce soir évidemment à l'occasion de cette 23e journée de Ligue 1. Mais c'est un pas important de plus vers le top 10, l'objectif de Philippe Pantani en début de saison. Des Toulousains qui vont passer, on le disait, devant Clermont, battu hier par l'Olympique de Marseille, qui vont passer également devant Reims, qui jouera cet après-midi. Ce sera donc une excellente opération, on le disait, Toulouse qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, qui va intégrer donc le top 10 avec un nouveau score fleuve à domicile, hein. Vous entendez certainement les supporters toulousains qui sont en train de siffler les joueurs rennais pour les dernières secondes, les dernières minutes de cette rencontre. Il y aura 3 minutes dans le temps additionnel et donc peut-être l'occasion de voir Toulouse marquer un 4e but, ou alors de voir Rennes réduire l'écart. Les Rennais qui jettent leur dernière force dans cette bataille, mais c'est une nouvelle faute et un carton jaune pour un joueur rennais. C'est un Toulousain qui est au sol, qui semble s'être fait mal au bas du dos, me semble-t-il. On demande à un soigneur toulousain de venir sur la pelouse du stadium. Ce n'est pas trop méchant, hein, pour le joueur toulousain qui va lui aussi essayer de bonne guerre gagner quelques secondes avant la fin de cette partie. 3-1 donc. On rappellera également le but contre son camp de Rouault côté toulousain, qui avait permis eh bien, à Rennes d'entretenir un petit espoir. Manu, tu le disais, un petit espoir, hein, infime espoir pour cette équipe de Rennes qui va eh bien, regagner les vestiaires ici au stadium eh bien, la tête basse, hein, car ça a été, Manu, tu le précisais en première mi-temps, un petit peu trop facile aujourd'hui pour Toulouse, en tout cas sur ces 10 minutes qui ont amené les 3 buts toulousains.
Oui, complètement. On a pu voir une défense un peu décimée à chaque contre-attaque. Et c'est surtout que les Rennais ont tendu le bâton pour se faire frapper, parce qu'ils ont perdu 2 ballons faciles au milieu de terrain. Et après, au niveau défensif, il n'y avait plus rien. Donc, mais il faut quand même apprécier tout le travail de Montagnier, qui a fait de cette équipe dans un jeu collectif. C'est tout un travail, des entraînements, répéter ce qu'on a envie de refaire le dimanche. Et tu sais que c'est pas évident, parce que les joueurs, ça rentre, mais des fois, quand tu perds des matchs, tu as plus envie de faire cette tactique-là. Mais il a su continuer dans cette voie-là. Et les joueurs, ça y est, ils ont pris connaissance de ce schéma tactique que Montagnier a voulu leur inculquer. Et franchement, on voit une équipe de Toulouse très collective, très solidaire, et ça fait plaisir à voir.
C'est vrai que ça fait plaisir à voir, et en tout cas dans ce brouillard breton, on retiendra quand même la performance de choix, hein, de Jérémy Doku, meilleur rennais cet après-midi sur cette pelouse toulousaine au Four et au Moulin. Lui qui n'était pas titulaire, hein, qui a pris la place de Karl Toko Ekambi, un véritable fantôme depuis sa rentrée à la 62e minute. Et Jérémy Doku vraiment qui aura été bien un poison pour la défense de cette équipe de Toulouse. On le voit encore à l'action là, dans le couloir droit, encore essayer d'apporter le danger sur le but de Maxime Dupé, mais les Rennais qui sont obligés là de reculer encore une fois. On est dans le temps additionnel, un petit peu moins d'une trente à jouer, et ce score toujours donc de 3-1. On rappelle les buteurs: Ratao à la 27e, Abouklal à la 28e. Attention à cette action dont finalement eh bien, c'est un Toulousain qui se jette et qui pousse le ballon eh bien, non pas en corner mais en touche. Les Rennais qui vont rapidement jouer ce coup avec Amine Gouiri qui essaie de se mettre eh bien, en évidence, mais pris par la tenaille, pris par 3 défenseurs toulousains. Et finalement, le ballon qui revient dans le rond central, on va jouer côté droit et peut-être encore une fois solliciter Doku pour l'une des dernières actions de cette partie. Et oui, le coup de sifflet final, Flora et Manu, et cette très très belle victoire convaincante du TFC ici à domicile, la 9e de la saison en Ligue 1 pour les joueurs de Philippe Montagnier. On rappellera les buteurs rapidement: à la 27e Ratao, à la 28e Abouklal, à la 37e Daliga, 3-0 à la mi-temps, et le but contre son camp de Rouault à la 54e ne changera rien. Toulouse continue eh bien, sa progression, sa qualification en quart de finale, sa belle victoire ici cet après-midi, et donc son intégration dans le top 10. L'après-midi parfaite donc pour les Toulousains ici à domicile. Victoire 3-1 face à Rennes.
Merci beaucoup Paul, ça lance parfaitement. Salut, l'après-midi Paul. De Ligue 1 qui vous attend sur RMC. Merci beaucoup Manu. Merci d'avoir été avec nous dans l'intégral sport, l'intégral foot, dans quelques instants pour le multi Ligue 1 à 15h avec Benoît Boutron et Sébastien Piocelle.
RMC Intégral Sport.